Vous êtes sur RTL.
C'est à vous Yves, bonjour.
Et merci à toute l'équipe de la matinale, cher Julien, bonne journée à vous. La Chine et les bistrots, c'est le menu de cette matinale. Commençons par la Chine qui s'affirme plus que jamais, au point qu'une importante tension surgit ces derniers jours en France. L'ambassadeur de Chine à Paris a été convoqué par les autorités françaises après sa dénonciation du spécialiste Antoine Bondaz, régulièrement invité sur l'antenne d'RTL, et traité de petite frappe dans un tweet de l'ambassade. Nous y reviendrons en deux temps avec François Langlais à 7h35, qui se demandera si l'on peut dire non à la Chine, et à 8h20 avec le spécialiste François Godemans. Nos bistrots maintenant, je vous invite à retrouver à 7h15 notre brigade RTL. Il nous manque énormément, aussi bien dans les grandes villes que dans les petits villages. Et c'est Armelle Lévy qui nous dira comment se porte la profession et surtout comment elle entend se projeter dans l'avenir. Enfin, l'invité politique d'RTL, le député France Insoumise Adrien Quatennens. Il est l'invité d'Alba Ventura à 7h40. La main tendue de Jean-Luc Mélenchon au vert, la situation sanitaire et politique dans son département du Nord. Et puis juste avant 9h, eh bien Cyril Lignac nous proposera sa recette de quiche Lorraine. Nous sommes le mardi 23 mars 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Une nouvelle devise, des règles simplifiées, le gouvernement mise tout sur la pédagogie.
Dedans avec les miens, dehors en citoyen. On croirait presque un slogan de campagne, vous verrez qu'on n'en est pas si loin. Des vaccinodromes pour accélérer la cadence, une trentaine de centres déployés à travers le pays et l'armée appelée en renfort. À moins de 3 mois des élections régionales, gros plan sur les Hauts-de-France ce matin. Xavier Bertrand veut tout faire pour conserver la région, quitte à s'allier avec quelques socialistes. Et puis la cadence infernale des Bleus, 3 matchs d'ici la fin du mois pour l'équipe de France de foot.
La politique, Olivier Bost.
La vaccination de masse donc, hein, les vaccinodromes, c'est la seule solution et on va enfin s'y mettre.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Comment résumer en 7 mots ce qui tenait jusqu'ici en 4 pages par un slogan ? Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Ça rime, c'est un alexandrin, c'est surtout censé résumer l'esprit des nouvelles règles éditées par le gouvernement. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Après les couacs du week-end, certains relâchements constatés, le cafouillage également autour de cette attestation, le gouvernement se veut donc beaucoup plus simple, quitte à donner l'impression, et on sent déjà pointer les critiques, d'infantiliser encore un peu plus la population.
Oui, si vous n'aviez pas compris les nouvelles règles, Matignon compte vous y aider. Le Premier ministre a voulu faire simple. Il a réuni plusieurs ministres hier soir. Résultat, un slogan et un document qui tient sur 1 page, 10 lignes. On peut y lire toute une liste d'exemples concrets. Et à chaque fois, c'est l'usage de la première personne du singulier qui prévaut, histoire de bien se faire comprendre. Je ne reçois pas chez moi, je ne me rends pas chez les autres. Au-delà de 10 km, je dois avoir une attestation justifiant le motif de mon déplacement. Je peux retrouver des amis dehors, mais à 6 maximum et en respectant les gestes barrières. Dans le ton, ça pourrait presque s'apparenter à un règlement intérieur d'école primaire. Cette nouvelle campagne de com, dedans avec les miens, dehors en citoyen, sera, selon nos informations, diffusée dans les prochains jours dans les journaux. Jean Castex a d'ores et déjà confié à ses ministres la mission d'aller prêcher la bonne parole.
Parallèlement, et c'est l'une des annonces du gouvernement hier, des vaccinodromes vont être mis en place il y a encore quelques semaines. Pourtant, Olivier Véran ne voulait pas en entendre parler. Changement de ton hier.
Je vous confirme que les centres de vaccination vont vacciner les jours fériés, tous les jours et les week-ends, et s'il le faut, les nuits. Nous allons augmenter le nombre de ces centres et nous allons créer en plus des centres État, donc, c'est ce que vous appelez le vaccinodrome ou des méga-centres, peu importe la terminologie, qui seront implantés au moins un par département, de manière à pouvoir suivre le rythme, parce qu'il va falloir vacciner davantage.
Jacques Serret, finalement, le gouvernement se résout donc à mettre en place ces vaccinodromes.
Oui, c'est un changement de pied radical de l'exécutif, pressé, il faut le dire, par les initiatives au niveau local, les maires. Donc, ici, un centre de vaccination dans un stade à Toulouse, là, un autre à l'hippodrome à Marc-en-Barœul, quand ce n'est pas carrément le vélodrome à Marseille. Finalement, le gouvernement annonce mobiliser le service de santé des armées, manière de tenter de prendre le train en marche.
Merci, Jacques Serret, du service politique de RTL. Notez qu'Emmanuel Macron se rendra, lui, tout à l'heure à Valenciennes, dans un gymnase transformé en centre de vaccination. Les mutuelles et les complémentaires santé prendront désormais en charge 4 séances de psy par an dans la limite de 60 euros par rendez-vous. Une décision qui fait suite aux récentes études sur l'état psychologique dégradé des Français après un an de pandémie.
Les chiffres, eux aussi, hein, continuent de se dégrader avec ce seuil symbolique désormais dépassé, plus de 4 500 personnes soignées dans les services de réanimation. réanimation.
Et cette zone rouge qui pourrait, d'ici la fin de la semaine encore, être élargie dans le Grand Est, notamment, la situation est jugée particulièrement préoccupante. Les hôpitaux sont déjà saturés, Yannick Collin.
Oui, tous les indicateurs se dégradent rapidement dans le Grand Est. D'abord sur les contaminations, 14 000 la semaine dernière. Un département est particulièrement surveillé, il s'agit de l'Aube, avec un taux d'incidence à 441 et presque uniquement du variant anglais. Ça se dégrade aussi à l'hôpital, 390 patients en réanimation. Le Grand Est ne pourra plus accueillir des malades d'autres régions pour les soulager. Les autorités veulent donc accélérer la vaccination, pas forcément avec un vaccinodrome géant, mais plutôt avec une occupation de terrain, comme l'explique Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est.
Pour l'instant, on s'adapte aux livraisons. L'idée, c'est de d'abord conforter les centres existants. Certains peuvent sans problème doubler leur capacité d'accueil. Et puis, on va ouvrir d'autres centres un peu partout et faire en sorte qu'on ne soit pas à plus de 20 minutes d'un centre.
Mais en attendant cette vaccination de proximité, un dernier élément inquiète les autorités, c'est l'explosion du nombre de cas contacts. Pour un même nombre de malades, plus 30% de cas contacts en 15 jours, preuve du relâchement dans le respect des gestes barrières.
Yannick Holland, la justice n'aura pas traîné 48 heures après le carnaval sauvage organisé à Marseille. 9 individus ont déjà été interpellés. Certains seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate pour des dégradations survenues en marge du défilé. 100 000 euros de dégâts, la mairie de Marseille a porté plainte. Elle incite tous les participants à se faire tester. Et puis sachez qu'en Allemagne, Angela Merkel durcit les règles à l'approche du week-end de Pâques. Dans une allocution cette nuit, la chancelière annonce la fermeture du 1er au 5 avril de tous les magasins du pays et l'annulation des offices religieux.
RTL 7h05, quand Xavier Bertrand recrute à gauche pour garder son poste à la région. Braconnage dans les Hauts-de-France, on vous explique tout ça dans un petit instant.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Le premier tour des élections régionales est donc fixé le 13 juin prochain. Pour l'instant.
Ouais, il a déjà été décalé. Le scrutin aurait dû se tenir en ce moment. Et un nouveau report n'est pas exclu. Le conseil scientifique rendra son rapport à ce propos la semaine prochaine. D'ici là, les grandes manœuvres ont démarré. Dans les Hauts-de-France notamment, ce qui s'annonçait comme une formalité pour le président sortant Xavier Bertrand se complique avec pour la première fois une liste unique à gauche. Même si Marie Mollet l'a encore... Tout n'est pas si simple, expliquez-nous.
Oui, avec 4 partis pour une seule liste, les places vont valoir très cher et beaucoup d'élus PS vont rester sur le carreau. D'ailleurs, les barons locaux comme Martine Aubry sont restés muets après l'annonce de l'union. Ce malaise n'a pas échappé à Xavier Bertrand qui compte bien en profiter. Alors lui, le candidat de droite, envisage de recruter sur sa liste des figures de la gauche. Oui, vous avez bien entendu. Christophe Coulon, son vice-président à la région, l'assume complètement.
S'il y avait des personnes d'une sensibilité de gauche qui n'est pas celle de Xavier Bertrand, mais pourquoi ne pas envisager à un moment une coopération ?
En coulisses, des discussions ont cours depuis plusieurs mois entre Xavier Bertrand et des élus socialistes. Pour le sénateur PS Patrick Kanner, le président des Hauts-de-France pratique le braconnage.
Monsieur Bertrand va chercher des soutiens à gauche. Il fait son marché. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de premiers vice-présidents à qui il a promis ce poste.
Non, aucun braconnage, dément l'équipe de Xavier Bertrand. À droite, certains s'agacent même de ces rumeurs. On ne va pas se récupérer tous les recalés de la liste de gauche, peste un maire LR. Le problème, c'est que Bertrand court 2 lièvres à la fois, résume un poids lourd du PS. Il veut être le candidat du centre pour les régionales et le candidat de la droite pour la présidentielle. À force de grands écarts, attention au claquage.
Explication de Marie Mollet. Poursuite du mouvement de grève qui touche les transports en commun à Lille. De grosses perturbations ce matin encore. Aucun bus en circulation ni aucun tramway sur les deux branches Lille-Roubaix et Lille-Tourcoing. Le métro lui circule normalement. À l'étranger, cette nouvelle fusillade de masse aux États-Unis cette nuit à Boulder dans l'état du Colorado. 10 personnes au moins dont un policier ont été tués dans un supermarché de la ville. Un suspect a été arrêté.
RTL, il est 7h10. Direction Clairefontaine maintenant, où les Bleus sont arrivés hier.
Et ils n'ont pas une seconde à perdre avec d'ores et déjà une première rencontre prévue au Stade de France demain soir face à l'Ukraine. Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Et ça ne va pas s'arrêter, hein, Philippe Sanfourche. 3 matchs d'ici la fin du mois.
Oui, 3 matchs et pas un seul amical en 7 jours, c'est du jamais vu avec en plus 2 déplacements, Bosnie mais surtout Kazakhstan, 6 heures d'avion, 5 heures de décalage horaire à encaisser dans un sens puis dans l'autre en 72 heures. Didier Deschamps avoue ne plus trop maîtriser.
Je subis, on subit, je ne suis pas là pour mettre mettre en cause qui que ce soit, mais on m'a pas demandé si c'était mieux, pas bien. Vous savez, c'est fait avec des données qui rentrent dans un ordinateur. Ça peut faire beaucoup et ça peut faire la différence.
Pour des joueurs déjà sursollicités, Raphaël Varane alerte sur les risques encourus.
On a besoin aussi de plages de récupération. Sinon, il y a énormément de blessures. On a peur d'avoir des joueurs pas disponibles et un spectacle où il y a moins d'intensité. Pour tout le monde, je pense qu'il faut qu'on réussisse à trouver ce juste équilibre entre le fait de jouer pour aussi l'économie du football, mais pas trop jouer pour le bien du football.
En attendant, les sélectionneurs s'adaptent. Plus de joueurs convoqués, 26 au lieu de 23, 5 changements par match au lieu de 3. L'élastique se tend en espérant qu'il ne claque pas.
Philippe Sanfourche.
Match à suivre demain sur RTL de 20h à 23h avec notre brillante équipe des sports.
Le printemps de Bourges est reporté de quelques semaines. Prévu début mai, il aura lieu finalement du 22 au 27 juin. Les organisateurs espèrent que d'ici là, la situation sanitaire permettra d'offrir, je les cite, un festival généreux, ouvert et fédérateur. La semaine de la presse à l'école se tient en ce moment. Chaque année, c'est l'occasion de sensibiliser les plus jeunes aux médias, à l'information et à une meilleure compréhension. C'est d'ailleurs le thème de cette année, s'informer pour comprendre le monde. À cette occasion, Gulli, chaîne du groupe M6 auquel appartient RTL, organise des rencontres entre les journalistes du groupe et des collégiens. Reportage à Guyancourt, dans les Yvelines, Nerissa et Mani.
Sur le tableau blanc de la salle de classe défilent les plus célèbres photos de Yann Arthus-Bertrand.
Alors qu'est-ce que c'est que cette photo ?
C'est un cœur.
Oui, mais à part ça, il s'appelle forêt de mangroves. On a perdu depuis une trentaine d'années 50% des mangroves à cause de la déforestation.
Comment réduire son impact sur l'environnement ? Que faire pour sauver la planète ? Où s'informer ? 2 heures d'échange avec une vingtaine de collégiens.
Tout ce qui est autour de nous, c'est de la nature. Il n'y a pas d'un côté la nature et d'un côté l'homme. Moi, quand je photographie, je disais souvent comme exemple, quand je voyais une ville en hélicoptère, eh bien, c'était comme une fourmilière dans la forêt, comme l'homme s'installe sur Terre.
En sortie, les élèves de 4e et leurs professeurs de SVT sont ravis.
Je pense que la présence d'un professionnel peut vraiment donner beaucoup plus de poids au dialogue et au contenu de l'enseignement qu'on va avoir.
Ça nous a appris plein de choses et on s'est bien amusé.
Moi, ce qui m'a marqué, c'était avec les gaz à effet de serre. Qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais juste un petit geste, bah, ça peut changer quelque chose.
Les élèves qui ont d'ailleurs décidé cette année de s'inscrire au club des reporters de leur collège.
Nerissa et Mani.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Chantilly.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, l'As, le 5, le 11, le 13, le 2, le 7 et le 3. La dernière minute, c'est le 5, Papoua.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h13, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors Emmanuel Macron va donc visiter aujourd'hui un centre de vaccination à Valenciennes, un centre où 1000 injections sont réalisées chaque jour. Le message, c'est que la vaccination de masse est le seul moyen de s'en sortir, c'est bien ça ?
Oui, Bruno Le Maire hier était dans ce studio et dès le début de l'interview, interrogé sur le pataquès de ce week-end, les attestations kafkaïennes et le concept des commerces non essentiels, eh bien, dans sa toute première réponse, le ministre de l'économie est allé droit au but. Il y a une seule solution, c'est la vaccination de masse, la vaccination accélérée. Ce n'était pas seulement pour évacuer les difficultés du moment, à répétition du gouvernement, le naufrage technocratique, c'est parce que ça reste effectivement la seule voie pour s'en sortir. La seule solution, c'est la vaccination.
Mais là aussi, pour l'instant, c'est pas encore une réussite. Hein.
Alors, c'est pas encore joué, ça c'est vrai. Emmanuel Macron se montre raisonnablement optimiste. Oui. Il y a des repères assez simples dans le temps qui ont été posés. 10 millions de vaccinés le 15 avril, le double quand même 15 jours plus tard, 30 millions à la mi-juin. Et tous les Français qu'ils souhaitent d'ici à la fin de l'été, ce qui est une date un peu plus vague. Ces objectifs dépendent de deux choses, des livraisons de doses par les différents laboratoires et de notre capacité à nous organiser.
Oui, alors dès qu'on parle d'organisation, là il y a un risque.
Ouais, vous n'avez pas tort, sauf que le gouvernement s'est résolu enfin au vaccinodrome. Ils ouvriront par dizaines le mois prochain et seront notamment tenus par l'armée. Si jusque-là le gouvernement s'y refusait, c'était par trouille d'avoir des images de hangars ou de stades complètement vide, faute de volontaires pour recevoir le vaccin, faute de personnel pour piquer ou, et c'est ce qui s'est passé jusque-là, faute de doses. Ce qui nous renvoie à nos problèmes européens. Et là, nous avons trouvé notre nouvel optimiste Béa, celui pour qui tout se passe comme prévu et pour le mieux depuis le début. C'est Thierry Breton, monsieur tout est formidable, le commissaire européen en charge de l'industrie et des vaccins.
Peut-être exagère-t-il un peu.
Alors disons que lorsqu'il s'exprime, même le gouvernement français est gêné. Oui. Dire que nous vivons dans un monde formidable quand la plupart des labos ne tiennent pas leurs engagements. Tout ça ne va pas faire retomber l'agacement et l'épuisement des Français. La propagande nuit à la vérité et donc encore et toujours à la confiance. Tous les Français connaissent ou ont connu ces dernières semaines un proche qui cherche à se faire vacciner et qui n'y parvient pas. Moins de 2,5 millions de Français ce matin ont reçu 2 doses, je vous le rappelle. Non, tout n'est donc pas formidable. Le gouvernement parlait de course de vitesse pour ralentir l'épidémie. Cette course-là n'est pas gagnée. Nous allons vivre des jours très durs. C'est en fait une course de fond pour se débarrasser du virus qui est bel et bien engagée et elle commence à peine.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur le site rtl.fr et à 7h40. Je vous rappelle que c'est Adrien Quatennens de la France Insoumise qui sera l'invité d'Alba Ventura. Dans un instant, notre brigade de l'actualité déclare sa flamme à nos bistrots. 40 000 établissements fermés depuis plusieurs semaine. Comment vivent-ils? Comment les Français ont modifié leurs habitudes? Ne manquez pas nos reportages dans quelques secondes, à la fois dans les grandes villes et dans les petits villages. A tout de suite.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Il est 7h18, je vous le disais, dès 7h. Hein. Avec notre brigade de l'actualité, nous vous disons ce matin haut et fort que nos cafés, nos restaurants, nos bistrots nous manquent et que nous pensons à eux. Pour boire, pour manger, pour retrouver nos amis, pour refaire le monde, ces lieux laissent un vide dans nos vies, que l'on vive en ville ou dans un village. Bonjour Raphaël Vantard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez dans le département de l'Ain, dans le village de Maya, près de Nantua, où les 640 habitants attendent avec une très grande impatience la réouverture de leur café.
Ce n'est plus une cloche accrochée à la porte comme souvent dans les bistrots d'antan, mais à l'entrée du café, une phrase, un rite, un impératif est resté.
Bonjour.
Bonjour, comment ça va? Comment tu vas? Comment il va lui? Ça commence toujours comme ça devant le comptoir argenté du bistrot de Maya, village de 700 habitants au cœur de l'Ain. Christian Muret et sa femme Jocelyne tiennent ce bar supérette. Ils s'attachent plus que tout à ces petits mots, ces attentions simples et immense du quotidien.
Dire bonjour, au revoir et merci. C'est pas de l'effet d'esbrouf, c'est vraiment prendre soin des gens. C'est le fondement même du commerce de village.
Avec le Covid, les gens sont restés fidèles. Et ils ont senti que cette proximité, c'était quelque chose qui leur apportait beaucoup. Si tu as besoin, je suis là.
Aujourd'hui, bah, tu marches un peu moins bien, ceci, cela, etc. On n'a pas le temps de discuter tout le temps, mais on est tout le temps là.
Bonjour, monsieur le maire. C'est primordial d'avoir un lieu comme celui-là, les bistrots.
Ça permet une vie sociale, ça permet aux gens de se rencontrer, ça permet d'avoir les services sur place. Ici, on a l'avantage d'avoir le journal, les jeux, l'épicerie, le primeur. Et puis le café qui peut faire lieu de vie, c'est un point de vie, on en a besoin.
À la sortie, René nous attend, le regard plein de malice, retraité, passionné de course. Il passe normalement tous les matins un petit moment dans son bistrot, ici à Maya.
Les gens, ils ne se rendent pas compte, ceux qui vont pas au bistrot tous les jours.
Puis on se raconte tout.
Puis moi, je vous connais pas, bah, si on pouvait, je vous paierais un café, je m'en fous. On peut se raconter un peu tout ce qui se passe dans la vie, quoi. Le vrai monde, quoi.
Ça vous manque, ça, de petits cafés avec les copains, ici?
On fait des économies.
René reviendra à son comptoir, refaire le monde ou bien parler de ses soucis. Mais les autres, s'interroge Christian le patron. L'habitude du café à la maison, du chacun pour soi en télétravail, prendra-t-elle le dessus? À Maya, au cœur de l'Ain, comme dans beaucoup de campagnes, le bistrot est encore plus devenu, avec le coronavirus, le passage obligé pour récupérer ses commandes en ligne. Alors quand tout sera fini, peut-être prendrez-vous un petit café avec votre colis.
Dire bonjour, au revoir et merci. Merci Raphaël Vantard. Revenons à Paris, dans le 18e arrondissement, à 2 pas du cimetière Montmartre. Le Brio, c'est un vrai bistrot parisien, typique, avec le grand comptoir toujours plein d'animation, au cœur de ce quartier populaire. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Aujourd'hui, les habitués doivent se contenter de la vente à emporter, café, bière et plat du jour à midi.
Oui, à quelques dizaines de mètres du périphérique parisien. Le bistrot fait l'angle entre deux rues, la crèche est à côté, le petit square, le primeur, et cet attroupement permanent sous la devanture rouge.
Avant le boulot, après le boulot, tous les jours on est là.
Le côté tactile, ça me manque énormément.
Et c'est un petit peu pour ça qu'on est là, c'est de la résistance.
C'est-à-dire, quitte à rester debout, un peu en plein vent...
Ouais, c'est ça.
On rompt l'isolement, quelque part.
On vient boire un café, mais on vient aussi se réchauffer un petit peu le cœur, l'âme.
Café du matin pour la plupart, cognac pour un habitué.
Tous les matins, t'es là, avec moi, santé.
La vie est belle.
Qu'est-ce qui vous manque le plus dans les bistrots, alors?
De me faire draguer.
Pour vous, le bistrot, c'est ça, c'est un lieu de flirt?
Ouais.
Or, il y a désormais une table qui barre l'entrée et à la place des cacahuètes, un gel hydroalcoolique moins convivial. Le comptoir en zinc, qu'on aperçoit une dizaine de mètres sur la gauche dans la pénombre, paraît si loin. Leïla et Fabien, les patrons, des figures du quartier.
Vous voyez, vous rentrez là, les lumières sont éteintes. Bon, j'ai la machine à café qui fonctionne, mais on a l'impression que c'est l'hibernation totale.
On est à une brasserie de quartier, on fait venir les colis, on garde les enfants. La police surveille beaucoup, donc à 6h05, on commence à trembler. On tremble de la tête aux pieds.
C'est ici un lieu de passage, celui des éboueurs à la première heure, ou des couvreurs du quartier qui, aujourd'hui, transit, auraient besoin d'un peu de chaleur.
Par exemple, aujourd'hui, il fait froid, on serait mieux à l'intérieur.
C'est vrai que là, avec son petit gobelet en carton dans la rue, c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil.
Pour rester ouvert, les patrons proposent surtout des places à emporter.
Ça va pas nous sauver, mais voilà, quoi, ça paiera des petites factures.
En attendant la réouverture.
Ouvrons les brasseries, punaise, dis !
Julien Fautra dans le 18e arrondissement. Alors continuons à évoquer nos 40 000 bistrots avec vous, Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état du secteur et s'en sortent-ils ?
En fait, les bistrots sont vraiment touchés de plein fouet. Dans les grandes villes, ils ont perdu les touristes qui aimaient visiter et découvrir l'expérience de manger une bonne blanquette de veau ou un pot-au-feu. Et les bistrots ont perdu aussi la clientèle de bureau avec le télétravail. Ceux qui venaient prendre leur petit café au comptoir le matin, déjeuner le midi et boire leur apéritif le soir. Et les bistrots souffrent aussi dans les petits villages. Les personnes âgées ne viennent plus et toutes les réunions d'associations sont annulées. Alors en ce moment, ils proposent la livraison à domicile ou la vente à emporter. Mais cela ne représente pas grand-chose, entre 10 et 15% de leur chiffre d'affaires habituel. Donc ils le font surtout pour garder le lien avec la cuisine et avec leurs clients.
La question, c'est combien vont réellement résister à cette crise ?
Alors 70% sont en sécurité financière. Ce sont des sociétés en hibernation qui n'attendent qu'une chose, la réouverture pour pouvoir retravailler. Mais à l'inverse, 30% risquent de mettre la clé sous la porte. Ce sont des sociétés, pour ainsi dire, zombies, qui n'ont plus d'activité et qui ne survivent que grâce aux aides financières. En fait, quand vous êtes un patron propriétaire de vos murs, vous fermez, vous touchez les aides, ça passe. Mais si vous êtes locataire, vous aviez cumulé des difficultés ou même des dettes ces dernières années, avec les attentats, les manifestations, vous avez un mur de charges en face qui s'élève de mois en mois, et donc quand la réouverture va être actée et que l'État va enlever les perfusions et donc toutes les aides, oui, le compteur des charges va se remettre en marche et c'est là où les faillites vont apparaître. Les cafés, bistrots et brasseries représentent 450 000 emplois en France et des dizaines de milliers risquent d'être supprimés.
Alors justement, les patrons de cafés et de bistrots sont d'ailleurs très inquiets pour le moral de leurs troupes.
Mais oui, ils craignent une hécatombe chez les employés en chômage partiel depuis des mois. Il faudra gérer l'après-crise. Pour les barmans, les cuisiniers, les serveurs, tout s'est arrêté d'un seul coup. Beaucoup ont commencé jeunes et ils découvrent qu'ils peuvent s'organiser autrement pour profiter de leur soirée et de leur week-end. Les bistrotiers confient qu'ils ne sont pas sûrs de retrouver tous leurs salariés à la réouverture. Ils pensent que certains vont quitter le métier. Donc les patrons travaillent en ce moment même sur la déperdition d'emplois. Ils tentent de garder le lien avec les salariés en créant des groupes WhatsApp. Et les mutuelles leur proposent aussi de faire intervenir des coachs avec des stages pour repréparer les équipes, comment reprendre le travail moralement mais aussi physiquement. Les muscles se sont relâchés. Donc comment va-t-on retrouver les équipes ? Pour les patrons de bistrot, ça, c'est vraiment la surprise du chef.
Merci beaucoup Armelle Lévy de notre brigade RTL. Dans un instant, les grosses têtes, la météo et la pépite musicale d'Anthony Martin. Il est 7h25. Bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h26, notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, un peu de rock'n'roll ce matin. Oui. Il y a 45 ans, le chanteur anglais Murray Head n'en revenait pas. Sa chanson « Sailing So Joe » était devenue en quelques mois un tube phénoménal. On l'avait entendu tout l'été. C'était le slow incontournable. Tout le monde croyait que c'était une chanson d'amour, alors pas du tout. C'était une chanson coup de gueule. Murray Head a écrit « Sailing So Joe », qu'on peut traduire par « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Joe ». Après avoir vu à la télé un documentaire sur le scandale du Watergate, des Américains interrogés refusaient de croire que Nixon avait menti. À l'époque, un autre chanteur anglais, une des plus grandes voix du rock, enregistrait son troisième album solo à Paris et il entendait ce morceau partout. Cet artiste, c'est Roger Daltrey, le chanteur des Who, qui a tellement aimé le titre de Murray Head qu'il en a fait une reprise. C'est notre pépite du jour, Roger Daltrey chante Sailing So. Accompagné dans cette reprise par le guitariste des Wings, groupe de McCartney, et par ses copains des Who, Keith Moon à la batterie et John Entwistle à la basse, autant dire que ça joue. Tonic.
Oui.
Le titre emblématique de Murray Head, interprété par Roger Daltrey. On trouve cette version dans l'album solo du chanteur des Who, One of the Boys, sorti en 1977.
C'était la chronique Tonic Réveil avec Anthony Martin. Merci beaucoup Anthony, à demain pour une nouvelle pépite. Nos grosses têtes chaque après-midi de 15h30 à 18h. C'est un remède anti-morosité à consommer sans modération. Et ce matin, nos grosses têtes reconnaissent qu'elles aiment jouer aux boules.
Et c'est vrai, car autant vous dire que Valérie est pas mauvaise.
C'est vrai.
À la pétanque.
Bah, il faut dire, hein, j'ai un terrain à une boule dans mon jardin.
Alors voilà. Ah. Ariel, alors je dois dire, il faut d'abord lui expliquer le jeu.
Oui, mais je m'y suis mise très vite.
Mais elle se met très vite aux boules.
Le truc, c'est de se mettre à côté du cochonnet, oui. Péroni, vous jouez, j'imagine.
Oui, mais moi j'ai un truc de feignant aussi. J'ai l'aimant. Pour éviter de me pencher pour
ramasser les boules.
Est-ce que tu as le
Il n'y a pas besoin d'aimant. Moi, j'ai un autre truc bien plus simple.
J'avais un esclave.
Le chien.
Vous avez un esclave.
Non. J'attends que les autres ramassent leurs boules et généralement ils se trompent toujours. Et les deux qui restent. Et les deux qui restent, c'est pas les miennes. Et je dis c'est pas les miennes. Et hop, je prends. C'est la seule façon de pas avoir à se baisser.
Il est habile. Et pour l'émission inédite du jour, rendez-vous dès 15h30 avec Isabelle Mergault, Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Christophe Beaugrand et Johan Rioux. Bonjour Lubodin.
Bonjour Yves.
Alors, la météo, c'est pas très stable, nos histoires.
Non, et puis surtout hier, j'ai été pris en défaut, hein, petit mea culpa. Hier, je vous avais dit dans la moitié nord, autour de quelques éclaircies, on n'a pas vraiment eu beaucoup. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas me tromper, parce que c'est ce que je prévois à nouveau.
Voilà,
merci. Avec donc, du soleil qui devrait revenir. D'ailleurs, je vois qu'il est déjà très présent hein, dans la plupart des régions. Il y a quelques nuages encore dans le nord, dans le nord-est. Mais là aussi, ça devrait finir par se dissiper. Donc, cet après-midi, c'est promis, cette fois-ci, ça sera grand soleil pour tout le monde. Il restera quelques nuages sur la Bretagne, peut-être également au nord de la Seine ou encore dans le nord-est, mais sans conséquence. Et là aussi, donc, on verra un peu le soleil. Ailleurs, grand ciel bleu. En prime, moins de vent, moins de mistral et de tramontane près de la Méditerranée cet après-midi. En revanche, côté température, toujours des gelées en ce moment. Bah oui, le ciel a été plus dégagé en cours de nuit, donc fréquentes gelées. Mais cet après-midi, ça remonte par rapport à hier. Enfin, quasiment des valeurs de saison, 12 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 17 dans le sud.
Merci beaucoup Louis Bonin, merci à vous qui écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 23 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence par un coup de gueule ce matin, celui de Sandra, l'une des 450 victimes du docteur Gage. Il y a 10 ans, ce dentiste véreux de Marseille était le mieux payé de France grâce au remboursement de la Sécu, car il a posé des milliers d'implants et de bridges sans raison valable. Des prothèses qui se sont vite abîmées avec des séquelles terribles pour les patients.
J'étais allée parce que j'avais une petite carie au niveau de ma canine. Et il a suggéré qu'il fallait me les refaire. En fait, moi, il m'en a refait 5. C'était mon médecin, c'était mon dentiste. Je lui faisais confiance. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je vais voir un dentiste, on me dit « Oui, vous avez mal, mais le travail n'a pas été fait par moi. Je ne sais pas ce qui se passe en dessous. » Du coup, ils ne prennent pas le risque de nous voir. Alors, on reste comme ça, on prend des antibiotiques, on prend du Doliprane et on se tait. Et ça fait 10 ans.
Sandra au micro RTL d'Hugo Hamelin. Le docteur Gage a été banni il y a 5 ans par le Conseil de l'Ordre, mais depuis 10 ans, toujours pas de procès.
Il n'y a que les imbéciles hein, qui ne changent pas d'avis. Le gouvernement se décide finalement à mettre en place des vaccinodromes.
Oui, c'est désormais possible car les livraisons de doses s'accélèrent. L'armée et les pompiers vont être mobilisés pour déployer au moins 35 méga-centres de vaccination dans toute la France, Odile Pouget.
Des grands espaces, des gymnases, des stades, voilà ce qui va servir de décor à ces vaccinodromes. Les pompiers, l'armée, la Croix-Rouge vont prêter main forte pour la logistique et l'organisation. À terme, chaque département sera doté, selon ses besoins, d'un ou deux centres où l'on pourra vacciner 1 000 à 2 000 personnes par jour. Une population susceptible de se déplacer sans problème. Pour cela, il faut des bras. Les dentistes, les vétérinaires, les biologistes ont fait acte de candidature. La Haute Autorité de Santé va se prononcer cette semaine à ce sujet. L'objectif, c'est d'absorber et d'utiliser au mieux les vaccins qui vont arriver, car la cadence des livraisons va s'accélérer. 12 millions de doses attendues le mois prochain, si tout va bien.
Odile Pouget, changement de stratégie vaccinale et changement de communication. Après le freiné sans enfermer de Jean Castex, le gouvernement dégaine un nouveau slogan. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Slogan assorti d'un petit mode d'emploi des nouvelles restrictions qui visiblement n'avaient pas été bien comprises. Pas de restrictions à Marseille, mais c'est quand même l'indignation à tous les étages après le carnaval sauvage qui a rassemblé 6500 personnes dimanche dans le quartier de la Plaine. Écoutez, Jean-Marc Coppola, c'est l'adjoint chargé de la culture.
On comprend l'état psychologique de nos concitoyens, des jeunes, oui, à la reconquête de liberté, mais à condition que ce soit respectueux de la santé publique, respectueux des soignants, respectueux des gestes barrières, et c'est comme ça qu'on gagnera justement de nouvelles libertés.
Jean-Marc Coppola avec Étienne Baudu. Gérald Darmanin a promis la plus grande fermeté. 4 personnes seront jugées dès aujourd'hui en comparution immédiate pour des violences. Reste à trouver les organisateurs. Pendant ce temps, le nombre de patients Covid en réanimation ne cesse de progresser. On est désormais au-delà de 4500, dont 471 nouveaux patients sur les dernières 24 heures. Les chiffres s'affolent en Île-de-France avec un taux d'incidence à 537 sur la semaine écoulée. L'épidémie qui repart de plus belle aussi en Allemagne, d'où ce nouveau tour de vis. Tous les magasins seront fermés pendant 5 jours autour du week-end de Pâques, du 1er au 5 avril, et les offices religieux sont annulés. Nous sommes dans une nouvelle pandémie. Voilà ce que dit Angela Merkel.
Le Covid qui bouleverse même la tirelire de nos enfants.
Oui, c'est ce que montre une étude de la Fédération bancaire française. 95% des enfants continuent à recevoir de l'argent de poche, mais à part ça, tout a changé. C'est ce que nous dit Maya Attig, la directrice de la FBF.
19% d'entre eux disent avoir reçu moins d'argent. Deuxièmement, 53% ont mis l'argent reçu de côté. Habituellement, c'est moins de 50%. Et la fréquence des achats a diminué. On a moins de tentations, on achète moins. Et puis, aujourd'hui, les bonbons sont à égalité avec les jouets, alors qu'ils faisaient la course en tête. Donc maintenant, les jeux vidéo sont aujourd'hui l'achat privilégié des enfants, avec une forte hausse, 36%. Préfère acheter des jeux vidéo plus que toute autre chose.
Maya Attig avec Marie Guerrier pour RTL. Aux États-Unis, une fusillade a fait 10 morts, dont un policier dans un supermarché du Colorado. Grosse émotion sur place, évidemment. On entend ici la shérif locale. Un suspect a été arrêté et hospitalisé car il a été blessé. Il s'agit d'un homme blanc. Il était armé d'un fusil d'assaut souvent utilisé dans les tueries de masse. Le foot, les Bleus se sont retrouvés hier à Clairefontaine pour préparer une semaine bien chargée. 3 matchs de qualification pour le Mondial 2022. Ça commence demain soir au Stade de France avec l'Ukraine. Ce sera toujours sans Benzema qui fait pourtant des étincelles au Real. Hier, le vice-capitaine des Bleus, Raphaël Varane, a pris la défense de son coéquipier au Real.
Moi, je suis évidemment pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection ou pas en sélection, puisque ça fait 10 ans que je joue avec lui à Madrid. Il fait partie des meilleurs du monde. Il a envie de le montrer. Il est affûté physiquement. Mentalement, il est plus déterminé que jamais. Voilà, ça, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un top joueur et qu'il est dans une très grande forme.
Raphaël Varane, micro RTL de Nicolas Georgerot. Côté supporters, sachez qu'un fan de l'OM a été condamné hier à 1 an de prison ferme pour l'invasion de la commanderie fin janvier. Il avait été arrêté dans le centre d'entraînement avec des fumigènes. Et pour terminer, le moment feel good de ce Tout Info.
C'est la mer, ça.
Oui, ce sont les vagues. Vous vous sentez mieux, Yves ?
Ça fait du bien.
Voilà, ça fait du bien, dit François Langlais. C'est normal, une étude le prouve. Les bruits de la nature sont bons pour la santé, bons pour le moral, les performances intellectuelles, contre le stress et même contre la douleur. Ce qui marche le mieux, c'est le bruit de l'eau. Et tout de suite après, il y a aussi... Les petits oiseaux, bien sûr.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, on écoutera peut-être le chant des flammes roses. En tout cas, c'est le sujet du jour. Les flamands braconnés dans une province d'Irak.
À tout à l'heure, Isabelle. Bonjour François.
Bonjour Yves.
Ça se tend entre la Chine et l'Europe. Hein.
Oui, on va rester avec les animaux. Espèce de hyène folle. Petite frappe. C'est ainsi que l'ambassade chinoise en France a qualifié un de nos chercheurs pour le punir de ses positions. Il aurait pu dire vipère lubrique. Dans le même temps, l'Europe prend des sanctions contre Pékin. C'est la première fois depuis Tiananmen, je vous raconte ça.
On va vous expliquer tout ça dans un instant. A tout de suite avec l'Angle Écho sur RTL.
Yves Calvi sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Je vais être franc, il est 7h39. L'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Merci de cette franchise, bonjour à tous.
Pour la première fois depuis 1989, l'Europe prend des sanctions contre la Chine.
Oui, Bruxelles a décidé d'interdire les voyages de 4 officiels chinois, ainsi que le blocage d'actifs financiers en mesure de punition. Pour punition contre les persécutions des Ouïghours, cette minorité musulmane qui habite l'ouest de la Chine. Un bon million de Ouïghours sont embastillés dans des camps de travail. immédiatement, la Chine a réagi, interdisant à son tour l'entrée de son territoire à plusieurs personnalités, parmi lesquelles le philosophe Raphaël Glucksmann, député européen français, en pointe pour dénoncer la répression dans le Xinjiang. Justement, cette Chine de l'Ouest est musulmane. Oui. Et c'est en effet la première fois depuis le massacre de Tiananmen que l'Europe prend de telles mesures, fussent-elles symboliques, mesures qui ont été prises conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni.
Est-ce que c'est un front occidental qui se forme contre Pékin ?
Oui, c'est la différence avec la guerre contre la Chine du temps de Trump. À l'époque, en fait, il y avait deux différences. Un, la guerre ne portait que sur des sujets commerciaux. Et deux, l'Europe ne s'y est jamais associée parce qu'elle était elle-même la cible des foucades de Trump. Désormais, ce sont les droits de l'homme qui passent au premier plan, et puis l'Amérique fédère une sorte de coalition des Occidentaux oui. avec le Royaume-Uni, l'Australie, l'Europe et le Japon.
Et tout cela sont effectivement décidés à en découdre avec les
oui,
Chinois ?
Oui. Aux États-Unis, Joe Biden est bien décidé à taper fort pour contrer la volonté de puissance chinoise. Le Royaume-Uni, sans état d'âme, c'est tout à fait remarquable. Il a même accepté de rendre éligibles au passeport britannique des millions de citoyens de Hong Kong qui souhaiteraient quitter la férule chinoise. Le Japon, bah lui, il est en train de relocaliser massivement ses usines de production chinoise pour les installer ailleurs, en Asie. Quant à l'Australie, après s'être laissée littéralement colonisée par la Chine, elle est entrée en rébellion.
Mais alors l'Europe dans tout ça ?
Comme toujours, elle fait comme les autres, mais plus tard que les autres. Elle qualifie désormais la Chine de rivale systémique. Il était temps. Cyberattaques chinoises sur des entreprises européennes, investissements massifs effectués en Europe dans la technologie, et puis agressivité croissante de Pékin à l'encontre des démocraties occidentales. Tout cela, bah, ça a enfin dessillé les yeux de Bruxelles. Hier encore, on en parlait, c'est un chercheur français sur la Chine qui était qualifié officiellement de hyène par l'ambassade de Paris.
Mais les pays européens peuvent-ils rester unis face à Pékin ?
C'est le problème. D'abord, la Chine offre de l'argent, en particulier aux pays du Sud, comme l'Italie, la Grèce ou le Portugal, qui oui. profitent de ces investissements dans les infrastructures. Xi Jinping était là, en Europe, il y a un an, en Italie, pour rallier définitivement Rome à son grand projet des routes de la soie. L'Italie est le seul pays du G7 à avoir signé un protocole d'accord avec la Chine sur ce sujet. Ensuite, les dirigeants chinois ont créé ce qu'ils appellent le forum 16+1, qui les associe, eux, les Chinois, aux pays de l'ex-Europe de l'Est, y compris ceux qui sont membres de l'Union. Enfin, Pékin est toujours très habile pour faire valoir les atouts commerciaux de son marché intérieur, hein, qui est quand même le plus grand du monde. Pour les industriels du luxe, français, ou ceux de l'automobile, allemand, bah, la Chine, c'est le marché stratégique. Un groupe comme Volkswagen y réalise, avec toutes ses marques, près de 40% de ses ventes. Autant dire qu'il ne sera pas facile de faire prévaloir la politique sur le portefeuille.
Merci beaucoup François Langlais. Nous irons plus loin à 8h20 avec notre invité François Godemont, qui lui-même est un spécialiste de l'Asie. Il est 7h43. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, député de la première circonscription du Nord. Jean-Luc Mélenchon a tendu la main aux écolos pour les régionales, toujours pas de réponse.
A tout de suite avec notre invité Adrien Quatennens sur RTL.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens.
Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Alba Ventura.
Un carnaval sauvage en pleine épidémie à Marseille, 6500 personnes. Est-ce que vous dites, comme la mairie de Marseille, c'est inexcusable ? Ou bien vous comprenez, et finalement c'est une forme d'exutoire.
Je dis que ce n'est pas responsable, évidemment, parce que derrière ces agissements, on met aussi en risque toutes les personnes qui nous entourent quand on participe à ce type de festivités sans protection. Maintenant, je dis une chose, c'est qu'il y avait un caractère inévitable à cette pente, au fait que de plus en plus, les consignes sanitaires soient moins respectées, que finalement le niveau d'acceptabilité diminue. Ça fait depuis le mois de novembre dernier que nous disons avec Jean-Luc Mélenchon au gouvernement, vous n'allez pas pouvoir gérer la crise durablement à coup de confinement, déconfinement. D'ailleurs, Alba Ventura, vous avez compris quelque chose, vous, aux dernières annonces de M. Castex ?
Ah ben j'ai compris le dernier slogan, donc dedans avec les miens, dehors en citoyen.
C'est ça,
vous le comprenez ?
En quelque sorte, confiné, déconfiné, dehors, avec le couvre-feu qui commence plus tard, et puis les factures de gaz et d'électricité en guise d'attestation. Enfin, franchement, donc si vous voulez, à un moment donné, la gestion de la crise sanitaire, maintenant, ça fait un an que ça dure. Au début, on se dit, on ne tire pas sur l'ambulance, il y a un virus, les décisions sont difficiles à prendre. Ce qu'on voit surtout après un an, c'est qu'on combat non seulement le virus, mais aussi les décisions décisions politiques absolument folles qui sont prises. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé à Marseille, évidemment, n'est pas acceptable, parce qu'il ne s'agit pas de nier la gravité de la situation sanitaire, c'est clair. Mais en attendant, maintenant, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne pourra pas durablement traiter cette crise à coup de confinement et de déconfinement.
Vous auriez fait quoi, vous, écoutez, Adrien Quatennens ? Vous êtes élu du Nord, donc une des régions sous tension.
Ça fait depuis le mois de novembre que nous proposons au gouvernement un plan complet d'alternative au confinement. Il s'agit de dire comment lutter contre le virus, limiter au maximum sa circulation, tout en permettant que la vie reprenne
dans
tous les
secteurs. Mais quoi, on ferme les écoles ?
Non, au contraire. On réouvre la plupart des lieux, notamment les lieux de culture. Je pense aux plus de 70 théâtres qui sont mobilisés aujourd'hui, parce que, évidemment, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de nous cultiver, de nous divertir. Sinon, la quatrième vague, on le sait, va être une vague d'ordre psychologique. On le voit déjà. En revanche, il faut créer les conditions partout d'accroître les protocoles sanitaires. Nous avons proposé, par exemple, qu'on équipe un maximum de lieux avec les purificateurs d'air. Nous avons proposé une société organisée par roulement, par rotation, de sorte que tout le monde ne soit pas au même endroit, au même moment.
Une société par roulement ?
Oui. C'est-à-dire organiser les conditions de faire en sorte que dans tous les secteurs de la société, la vie puisse reprendre, Alba Ventura. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de secteurs en question dans lesquels on pourrait mettre en place des protocoles sanitaires qui le permettent. Est-ce qu'on peut encore comprendre aujourd'hui qu'on puisse s'agglutiner à la caisse d'un magasin et pas aller dans un théâtre, un cinéma où par ailleurs les protocoles sanitaires peuvent être mis en place ?
Tous les pays sont frappés par cette épidémie. Personne n'a tenté la société en rotation. C'est peut-être que c'est compliqué à organiser.
Ah, mais que ce soit compliqué, c'est une évidence. Mais il s'agit de planifier, de l'organiser. Sinon quoi ? Sinon on va vivre comme ça, toujours avec enfermement et puis réouverture. C'est pas possible. Donc désormais, il y a besoin d'en passer aux alternatives au confinement et il faut le préparer dès à présent.
Est-ce qu'il faut reporter les régionales ?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que reporter une élection, ça n'est jamais anodin. Si nous avons la capacité à organiser, d'ailleurs, il faut que le gouvernement accompagne le mouvement là-dessus, d'organiser une véritable campagne. Nous avons demandé à ce que les chaînes d'information, les chaînes de télé, de radio soient mises à contribution. Mais je ne crois pas qu'on pourra sans cesse reporter des élections. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est au gouvernement d'en prendre la décision. C'est lui qui aujourd'hui décide de tout seul et a sous les yeux les indicateurs sanitaires qui permettent de dire si on peut tenir ou pas ce scrutin. Mais si on les recule encore, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, on atteint notamment les comptes de campagne de la présidentielle, on ne s'en sort pas.
Adrien Quatennens, cela fait bientôt 48 heures que Jean-Luc Mélenchon a proposé un deal aux écolos pour les régionales. Toujours pas de réponse. Il ne se précipite pas les verts.
Écoutez, ce que nous disons, c'est que vous avez vu le mouvement que nous avons fait dans les Hauts-de-France qui a permis une liste de larges rassemblements. Mmh. La plupart de nos désaccords à l'échelle nationale, notamment sur les questions européennes, ne sont pas en cause dans les régionales et départementales. Donc on doit pouvoir se retrouver sur une base claire. Dans les Hauts-de-France, nous avons su le faire. Et désormais, j'observe que partout en France, les écologistes reviennent vers les insoumis. Les insoumis, dans cette élection, sont le plus grand dénominateur commun.
Comment
à gauche.
Ça, les écologistes reviennent vers les insoumis ?
On arrive à s'entendre avec à peu près tout le monde. Ben, ils reviennent vers nous parce qu'ils voient bien ce qui s'est passé dans la Haute-France. Simplement, ils veulent que la condition soit toujours la même, c'est-à-dire toujours derrière eux. Alors, Jean-Luc Mélenchon leur a fait une proposition, je la renouvelle à votre micro. Comme dans les Hauts-de-France, nous sommes rassemblés derrière une tête de liste écologiste, on pourrait imaginer qu'il y ait quelque part, au moins dans un endroit, quelque part en France, une réciproque. Par exemple, qu'en Île-de-France, Julien Bayou, qui est le secrétaire national, fasse le geste, pourquoi pas, d'aller derrière Clémentine Autain. Et on pourrait imaginer en contrepartie que dans d'autres régions, nous soutenions, pourquoi pas, une tête de liste insoumise.
En gros, vous dites au vert, laissez-nous au moins une tête de liste, on se met ensemble, mais laissez-nous au moins une tête de liste, comme par hasard en Île-de-France.
Ne serait-ce que pour la forme. Mais je dis l'Île-de-France parce que ça me paraît être un bon exemple, parce que Julien Bayou est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, mais ça pourrait être, pourquoi pas, en PACA, en Occitanie, qui est au moins une réciprocité dans un accord de partenariat, ça se comprend, je crois.
Les Verts ont plutôt bien réussi aux européennes et aux municipales. Donc, ce qu'il vous dit, c'est pardon, mais aujourd'hui, l'écologie est la locomotive. Ça, ce sont les mots de Julien Bayou.
Écoutez, aujourd'hui, tout le monde se prétend écologiste. La question, c'est de savoir ce qu'on fait concrètement et comment on se prépare à affronter le changement climatique. Vous voyez, j'ai amené un petit livret programmatique que nous avons sorti en librairie. Ça s'appelle « La planification écologique ». Ce sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour faire face à cette crise climatique, c'est-à-dire respecter la règle verte, mettre toute notre économie au service de ce grand défi.
Donc, vous dites qu'il n'y a pas de différence entre nous et les écologistes.
En tout cas, elles ne sont pas en cause dans les régionales et les départementales. Et donc, puisqu'on y arrive dans l'Hauts-de-France, on devrait pouvoir y arriver ailleurs. Et nous, on propose d'ailleurs même de se ranger derrière des écologistes dans d'autres régions, mais on demande simplement qu'il y ait au moins une réciproque. Et je pense que ça peut se comprendre, non ? Sinon, c'est un sectarisme absolu.
Et pourquoi ils ne vous répondent pas, à votre avis ? Vous l'avez
écoutez,
eu, Julien Bayou ?
Posez-leur la question. Non, alors ça fait que 48 heures. Nous, on attend, mais je pense que la proposition.
Vous allez attendre combien de temps ?
Elle mérite d'être étudiée. Bon, on va attendre encore quelques jours, mais la proposition mérite d'être étudiée. Mais voyez, même sur le fond, c'est compliqué. Par exemple, là, on vient de lancer, et j'en fais la publicité, une votation citoyenne
sur
l'eau.
Venir.
Vous savez que la question de l'eau, pour nous, nous en sommes sûrs, elle va être centrale. Il n'y a qu'à peine 2% d'eau potable sur toute la surface de l'eau qu'il y a sur Terre. Et la question de la raréfaction de l'eau est extrêmement importante. C'était la journée internationale de l'eau hier. Oui. Et nous voulons inscrire dans la Constitution le droit à l'eau, à l'assainissement et au fait que les multinationales ne se l'accaparent pas.
C'est-à-dire, c'est qui une les campagne, multinationales
ben, notamment les grandes multinationales de l'eau, vous les connaissez, qui font notamment que vos factures sont 10 à 25% plus chères si vous êtes avec une multinationale privée que quand vous êtes en régie publique. Il y a 2 millions de personnes à Albaventura qui, dans ce pays aujourd'hui, ont du mal à payer leurs factures d'eau. Donc c'est un vrai problème qui va s'accroître. Et nous avons organisé avec Mathilde Panot, la France Insoumise et beaucoup d'autres organisations qui nous ont rejoints, une grande votation citoyenne. Ça a démarré hier. C'est sur le site internet eau.vote. Et j'observe avec...
Mais vous demandez quoi aux citoyens
que les écologistes,
français ? Quelle est la
j'observe
question
que les écologistes
que
n'y participent pas. C'est regrettable. La question qui est posée est: êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution du droit à l'eau, à son assainissement et à l'interdiction de son accaparement par les multinationales ? Et vous irez voir sur le site internet eau.vote. C'est très bien fait. Nos équipes ont rapatrié là-dedans tout ce qu'il y avait sur les listes électorales. On voit que quand on veut qu'un référendum fonctionne, on peut s'en donner les moyens. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le site internet d'ADP que le gouvernement avait mis en ligne et qui voulait visiblement pas qu'on atteigne le nombre de signataires.
Vous avez vu que le pape François vous soutient
Mais
dans votre
nous avons
combat.
Le soutien du pape François, j'ai Formidable. Observé cela avec un tweet sur la question de l'eau bien commun, évidemment. Mais cette question est véritablement centrale pour les années à venir, je vous le dis, parce que la question écologiste aujourd'hui, c'est pas juste le fait de savoir si on aime ou pas la nature, c'est l'écosystème compatible avec la vie humaine qui est mis en cause. Voilà ce que nous
et
avons
Et vous allez affronté. Participer à la grande marche pour le climat dimanche prochain, le 28 mars.
Évidemment, et j'y appelle, et je pense que ce sera l'occasion d'ailleurs de faire voter du monde pour cette votation. Nous y tiendrons des bureaux de vote à proximité des marches pour que tout
Mais
le monde puisse y participer.
Mais il y a une loi climat en ce moment à l'Assemblée. À vous entendre, rien n'est fait sur le climat dans ce pays.
Écoutez, je participe tout à l'heure à Amiens, juste après notre échange, au procès d'un jeune insoumis, Gaspard, qui a participé, vous savez, au décrochage de portraits avec d'autres d'Emmanuel Macron pour signifier l'inaction climatique du gouvernement. Albaventura, vous savez que l'État a été condamné en justice pour inaction climatique. Le bilan écologiste d'Emmanuel Macron, c'est la répression des militants écologistes, c'est le fait d'avoir en avril dernier, par décret, diminué nos ambitions de diminution des gaz à effet de serre pour mieux dire ensuite qu'il avait atteint les objectifs, c'est la réintroduction des néonicotinoïdes, le refus d'interdire le glyphosate.
Et les passoires thermiques, la limitation des vols domestiques, limitation de la construction des centres commerciaux ou l'affichage publicitaire.
Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, vous en souvenez, qui en juin dernier étaient rassemblés dans les jardins de l'Élysée avec M. Macron, se sont entendus dû dire « je prends tout, je ne mets que trois jokers ». Eh bien, la loi qui est en discussion à l'Assemblée, c'est une loi des jokers. Les trois quarts de leurs propositions ont été foulées aux pieds, mises à la poubelle. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils appellent ce dimanche à une grande marche.
C'est la Convention citoyenne qui fait la loi dans notre pays, c'est pas les députés.
En tout cas, que ce soit les citoyens qui la fassent. Vous savez, moi, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, elles me vont très bien. 90% d'entre elles sont dans le programme que nous proposons. Ce qui veut dire que quand vous prenez des citoyens, que vous les tirez au sort, vous leur demandez de travailler, vous atterrissez à 90% sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Moi, franchement, ça me va.
Adrien Quatennens, le syndicat étudiant UNEF est encore au cœur de la polémique. La présidente du syndicat a reconnu des réunions non mixtes racisées, autrement dit interdites aux Blancs. Ça commence à devenir une mauvaise habitude, non ?
Écoutez, je pense que là, on a une polémique qui est une véritable diversion. Quand Valérie Pécresse, il y a deux jours, fait une réunion réservée aux femmes dans le cadre de sa campagne des élections régionales, j'entends pas qu'il faut dissoudre Valérie Pécresse ou son équipe de campagne.
C'est pas tout à fait réservé aux femmes.
Alors,
vous savez
très
bien que c'est les femmes qui ont subi des violences.
Quand certains clubs de grands bourgeois, comme par exemple des clubs d'automobiles, sont réservés aux hommes, j'entends pas non plus
vous
parler
de dissolution.
Vous savez
très bien que ça n'a rien à voir, Adrien
Quatennens. Ah bon, pourquoi ?
On peut pas comparer les alcooliques anonymes avec ces réunions.
Je vais vous dire une chose.
Discrimination anti-blanc, c'est du racisme, non ?
Laissez-moi vous répondre, Alba. Dans le syndicat UNEF, il n'y a pas de grandes réunions où se prennent des décisions, où l'on trie les personnes en fonction de leur couleur de peau ou de leur sexe. Il y a en revanche des groupes de parole, comme ça existe depuis des années, où des femmes discriminées ont envie d'échanger sur la discrimination qu'elles subissent entre elles, où des personnes de couleur ont envie d'en faire autant. Et quelle est cette polémique absurde qui ferait que, alors que la jeunesse de ce pays est de plus en plus nombreuse à faire les files d'attente pour les banques alimentaires, alors que la pauvreauté des jeunes s'accroît, qu'on a un gouvernement qui parle de pente fasciste
oui,
et qui éventuellement parle de dissolution d'un syndicat étudiant, ce serait gravissime. Que Jean-Michel Blanquer aille s'occuper du syndicat Avenir Lycéen, dans lequel il a les mains fourré dans le sac et puis après on reparle du reste.
Merci Adrien Quatennens.
Merci à vous.
Nous proposons un plan complet d'alternative au confinement, une société par roulement et planifiée et organisée, vient de nous dire Adrien Quatennens, qui se dit favorable au maintien des élections régionales et à une grande consultation nationale sur l'eau. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec le gouvernement qui veut nous mettre au sport.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Cyprien Sini, va y avoir du sport hein, si on en croit le gouvernement.
Allez, hop, hop, hop. On se bouge le popotin là. Non, parce que ça y est, hein, on a enfin compris le sens du nouveau mantra gouvernemental. Vous savez le...
Une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Le freiner sans enfermer. Alors au début, bêtement, hein, on l'avait compris un peu comme ça.
Une liberté sous très haute surveillance.
Vous devez être chez vous à 19h, passé 19h, vous n'avez plus le droit, monsieur.
Enfermé dehors.
Genre pas bien, enfermé dehors, gna 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 gna. Alors qu'en fait, le but du gouvernement, eh ben, c'est de nous faire faire du sport, qu'on devienne des athlètes. D'ailleurs...
Notamment pour pouvoir s'aérer, se promener, faire du sport...
Il avait bien précisé le Premier ministre jeudi. Tout le monde dehors pour le sport, oui. Il a un peu de mal à dire faire du sport. Mais bon, donc faire du sport et pas...
Les activités en extérieur ne doivent pas être le prétexte à barbecue entre amis ou encore à des attroupements devant certains bars.
Oui, si c'est pour picoler et manger des merguez grillées comme des feignasses, c'est pas la peine. Nous, on veut des sportifs. Et le ministre de la Santé a voulu être clair là-dessus hier, justement, en disant...
Quand nous disons aux Français qu'ils peuvent sortir à l'extérieur...
Hop, hop, hop. Déjà, alors, sortir à l'extérieur, ça, c'est pas terrible. Hein. Non, parce que sortir, généralement, c'est à l'extérieur. Sortir en intérieur, ça reste toujours un poil compliqué. Bref, il aime bien, d'ailleurs, le sortir à l'extérieur, puisque 10 secondes plus tard...
Et qu'ils peuvent sortir à l'extérieur.
Oui, bon, passons. Donc, le ministre de la Santé a été très clair là-dessus.
Et qu'ils peuvent sortir à l'extérieur, ils peuvent aussi sortir pour faire du sport. L'activité voilà. Physique, sportive, est plus qu'autorisée, elle est encouragée.
Donc, à fond la forme, sport. Bon, alors, en revanche, hein, si vous n'avez pas l'équipement, dommage pour vous. Eh oui.
Les commerces de sport, souvent, ce sont des commerces où il y a beaucoup de superficie. Donc on a dit, on les laisse fermer.
Eh, pas de bol. Hein. Bon, alors sinon, vous pouvez quand même partir au ski. Ça, c'est en extérieur. Ça.
Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public.
Ah ben non, toujours pas. Et sinon, il y a la piscine. Hein.
Est-ce qu'on ferme les piscines ou pas? Ça, on n'arrive pas à le savoir. Est-ce que les piscines vont fermer?
Non.
Et pourquoi?
Et pourquoi?
Non,
parce, où est la cohérence?
On n'a pas de masque à la piscine.
Non, parce que c'est en plein air, d'abord.
Non,
sauf
non,
celles
non,
qui
non,
sont
non,
couvertes.
Les piscines municipales.
Elles ferment les couvertes?
Oui.
Donc les piscines municipales, toutes les piscines couvertes ferment.
Et autant vous dire que sur les piscines en plein air, on est un poil limité dans la majeure partie du pays. Hein. Les salles de sport, elles sont toujours fermées. Après, faut bien le reconnaître, grâce à Jean-Michel Blanquer, au moins, nos enfants seront prêts pour les JO. Et parce que pour eux, c'est la totale. Hein. Gymnase, piscine, là, il n'y a plus de virus. Hein.
Continuer à autoriser les activités sportives de plein air. Nous permettons l'activité, donc, y compris en milieu fermé. La piscine, en temps scolaire, est redevient possible.
Et oui, pour eux, c'est open bar, Covid ou pas. De toute façon, il y a Paris 2024 à préparer. Hein.
On vous retrouve ce soir avec Thomas Sauton.
Le monde tel qu'il est.
Merci Cyprien Sini. Notre météo, Louis Baudin.
Eh ben on pourra se promener, tiens, sortir effectivement à l'extérieur, sous le soleil, hein, pratiquement partout. Il y a quelques nuages ce matin près des frontières du Nord-Est, mais ça ne va pas persister. Quelques brouillards également dans la vallée du Rhône. Mais au fil des heures, c'est bien le soleil qui s'imposera partout. Quelques nuages sur la Bretagne, au nord de la Seine ou encore dans le Nord-Est, mais sans conséquence, avec là aussi des éclaircies. Moins de vent dans la vallée du Rhône, moins de Mistral et de Tramontane, notamment cet après-midi. En revanche, côté température, on se couvre encore, notamment ce matin où les gelées sont fréquentes parce que le ciel a été plus souvent dégagé cette nuit. Et cet après-midi, en revanche, ça remonte un peu, 12 à 15 degrés dans la moitié nord. Nous voilà quasiment dans des valeurs de saison, 15 à 17 degrés dans la moitié sud.
Louis Baudin, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, seul à table à la cantine, c'est la nouvelle règle à partir d'aujourd'hui dans les entreprises.
Les détails de ce nouveau protocole sanitaire dès le début de ce journal. Les régionales déjà reportées au mois de juin pourront-elles vraiment avoir lieu? On fera le point avec la brigade RTL et puis l'ambassadeur de Chine en France convoqué au Quai d'Orsay. Il y a des insultes qui ne passent pas.
RTL Matin.
Avis aux salariés qui ne sont pas en télétravail, si vous n'aimiez déjà pas trop la cantine, ça ne va pas s'arranger avec le nouveau protocole sanitaire qui va être dévoilé aujourd'hui. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Vous avez le texte entre vos mains, une règle, mangez seul.
Oui, si vous devez déjeuner à la cantine sur votre lieu de travail, vous le ferez
100 personnes en face. Vous laisserez la place vide en face de vous et vous devrez respecter strictement, ce sera écrit comme ça, hein, respecter strictement la règle des 2 mètres de distance entre chaque personne. Le ministère du Travail s'est en fait rendu compte que cette règle-là était jusqu'à présent à géométrie variable dans les cantines. Le protocole nouvelle version rappellera aux entreprises plusieurs principes. Adapter les plages horaires des salariés pour la pause déjeuner. Disposer aussi les chaises de façon à bien respecter les distances, quitte à enlever des chaises si besoin. Enfin, là on parle des restaurants d'entreprise, mais le plus simple, le ministère du Travail le rappelle, le plus simple c'est encore de se préparer son petit plateau repas de déjeuner à son bureau, derrière son ordinateur, tout seul. C'est désormais autorisé, le plus loin possible là encore de ses collègues de travail.
Et plus globalement Anaïs, les entreprises qui sont situées aujourd'hui dans les 16 départements qui ont été reconfinés devront faire des efforts sur le télétravail.
Oui, le télétravail n'est pas assez respecté. C'est ce qui a été redit en réunion hier soir aux partenaires sociaux pour inciter encore les entreprises à tout faire pour que leurs salariés soient en télétravail. Le nouveau protocole leur demandera de préparer, je cite, un plan d'action. Les responsables devront être capables de savoir quels salariés, quelles tâches peuvent être à 100% à la maison et à contrario, quels salariés sont obligés de se déplacer. En cas de contrôle de l'inspection du travail, chaque chef d'entreprise devra être en mesure de préparer et de présenter son fameux plan d'action. Du côté des petites et moyennes entreprises, on s'inquiète déjà des risques de paperasse administrative, mais le ministère assure que ces plans d'action seront bien adaptés en fonction de la taille des entreprises, qu'on ne demandera pas le même niveau de détail à une très grosse société et à la petite PME de maçonnerie dont tous les salariés doivent de toute façon se déplacer. Enfin, dernier élément, le covoiturage. Pour les salariés qui vont au travail ensemble en voiture, il faudra obligatoirement porter un masque, comme dans un taxi, et aérer au maximum en ouvrant les vitres.
C'était très complet. Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Le virus circule de plus en plus activement en Île-de-France, notamment le taux d'incidence est désormais à plus de 530 pour 100 000 habitants. C'était 400 il y a une semaine. On rappelle que le seuil d'alerte fixé par le gouvernement est de 250. Le gouvernement qui s'est finalement résolu à ouvrir des vaccinodromes partout où ce sera possible, dans des stades, des gymnases, la France doit recevoir 12 millions de doses le mois prochain. Si tout va bien. On poursuit notre tour d'Europe. Comment font nos voisins justement sur le vaccin? Gros plan ce matin sur l'Espagne qui a déjà vacciné toute sa population de plus de 80 ans. La campagne est désormais élargie aux plus de 70 ans et à tous les personnels dits à risque, comme les enseignants. Écoutez ce reportage à Madrid de Diane Cambon.
Ils sont quelques 200 professeurs à avoir été convoqués ce matin dans cette salle de sport aux allures d'hôpital de campagne pour recevoir le vaccin. Assis sur des chaises séparées de 3 mètres, ils attendent leur tour patiemment. Les infirmiers ne chôment pas, le rythme des vaccinations est soutenu.
En 5 heures, on vaccine 1000 personnes, c'est très rapide. Entre la matinée et l'après-midi, 2000 personnes y passent sans aucun problème.
Un peu nerveux, les professeurs assurent se sentir soulagés de recevoir le vaccin, comme le confirme Maria, maîtresse d'école.
On avait très envie d'être vaccinés et que toute cette situation s'améliore. Nous, on est professeurs en maternelle, où les enfants ne gardent pas la distance, ils ne portent pas de masque. Alors il y a toujours une certaine crainte pour eux et pour nous.
Soulagement aussi pour Sonia, professeur de musique dans une petite école du centre de Madrid.
Pour moi, le vaccin, c'est fondamental. Je suis ravie d'avoir été appelée pour le recevoir et plus tôt m'injecte la deuxième dose, mieux c'est.
Il faudra attendre entre 11 et 12 semaines pour recevoir la seconde dose. L'Espagne devrait multiplier par 17 le rythme des vaccinations si elle compte parvenir, comme prévu, à 70% de la population vaccinée cet été.
Reportage de Diane Cambon en Espagne. En Allemagne, le cri d'alarme d'Angela Merkel cette nuit. Nous sommes face à une nouvelle pandémie, a dit la chancelière. Résultat de nouvelles restrictions pour le week-end de Pâques. Toutes les fêtes religieuses seront interdites entre le 1er et le 5 avril et la plupart des magasins devront rester fermés.
Et voilà qu'on repart avec de nouveaux soupçons autour de l'AstraZeneca.
Après la mort, toujours inexpliquée, d'un étudiant en médecine à Nantes. Il avait 24 ans. Virginie Garin, bonjour.
Bonjour.
Le jeune homme avait été vacciné quelques jours auparavant avec l'AstraZeneca.
Oui, Anthony était étudiant en 6e année de médecine. Mercredi dernier, il se plaignait de maux de ventre et avait expliqué à sa famille qu'il comptait voir un médecin. Il a été retrouvé mort le lendemain chez lui. Une enquête judiciaire est ouverte. L'étudiant, également interne au CHU de Nantes, avait reçu, comme c'est prévu pour les soignants, une première dose d'AstraZeneca il y a 10 jours, mais à ce stade, rien ne permet de faire le lien entre le décès et la vaccination, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Alors, l'autopsie aurait révélé que le jeune homme serait décédé d'une hémorragie interne causée par une thrombose, un caillot de sang. D'autres analyses sont en cours. Le jeune homme, selon son frère, était en parfaite santé. Ce cas va être examiné par l'ANSM qui a recensé en France 13 cas de thrombose sur plus d'un million d'injections, dont 3 cas rares sur 2 femmes de 24 et 26 ans et un homme de 51 ans, ce qui a poussé la Haute Autorité de Santé à recommander de ne plus vacciner les moins de 55 ans. Mais l'autorité a rappelé que les bénéfices de ce vaccin l'emportent largement sur les risques.
Merci beaucoup Virginie Garin. Le groupe pharmaceutique suisse Roche annonce ce matin des résultats encourageants sur les essais cliniques d'un traitement anti-Covid pour des patients non hospitalisés. Ils auraient mis en évidence une réduction de 70% des hospitalisations ou des décès chez les patients atteints de la maladie. En bref, aux États-Unis, cette fusillade dans un supermarché du Colorado à Boulder, il y a 10 morts, dont un policier de la ville, le premier arrivé sur les lieux lorsque les coups de feu ont été entendus. Un suspect a été interpellé. On ne connaît pas encore ses motivations.
Dans un instant, on vous explique pourquoi le ton monte entre Paris et Pékin. Restez avec nous. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin. Il est 8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Ce sont des termes bien peu diplomatiques qui sont au cœur d'un bras de fer entre Paris et Pékin.
Petite frappe, hyène folle, ces mots figuraient dans un tweet officiel de l'ambassade de Chine en France vendredi et il visait un chercheur français, Antoine Bondaz, que vous allez entendre dans quelques secondes, qui s'est ému publiquement de la persécution des musulmans ouïghours et des pressions exercées par les autorités chinoises. Des propos inadmissibles pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui a convoqué l'ambassadeur de Chine, Antoine Bondaz, donc le chercheur insulté, il est avec Brice Dugénie.
Clairement, ce qui inquiète l'ambassade de Chine, et on le voit d'ailleurs dans certains de leurs arguments, c'est le fait qu'on puisse parler de la Chine, qu'on puisse critiquer certaines politiques publiques. L'objectif des diplomates chinois est de mieux raconter l'histoire de la Chine et de mieux faire entendre la voix de la Chine. Ça veut dire que la Chine veut être capable de contrôler la communication sur la Chine et d'influencer le débat, y compris à l'étranger, en essayant soit d'imposer ses éléments de langage, soit de dissuader, d'intimider certains chercheurs, mais aussi certains journalistes et certains élus sur les questions chinoises.
Alors à quoi joue la Chine? On posera la question à 8h20 à François Godemont, qui est historien spécialiste de l'Asie à l'Institut Montaigne.
Nous sommes en mars 2021 et on aurait dû normalement voter pour les régionales et les départementales. Scrutin reporté, vous le savez maintenant, au 13 et 20 juin pour cause de pandémie. Mais ce n'est pas encore sûr à 100% puisqu'on attend encore l'avis du conseil scientifique. On fait le point avec la brigade RTL. Et c'est avec vous Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Alors y a-t-il un risque que ce ne soit pas possible de voter du tout en juin?
Oui, rien n'est exclu. Le traumatisme des municipales de l'an dernier a laissé des traces. Vous vous souvenez, un premier tour maintenu coûte que coûte, deux jours seulement avant le confinement, et puis un deuxième tour reporté trois mois plus tard. Conséquence, aujourd'hui, l'exécutif se veut beaucoup plus prudent. Matignon l'assure, Jean Castex se conformera aux préconisations du conseil scientifique. Mais l'idée de décaler ces élections à l'automne est déjà évoquée à demi-mot.
Et j'imagine que ça en agace certains.
Oui, d'ailleurs, ce week-end, 10 présidents de conseils régionaux sont montés au créneau dans une tribune. L'opposition insinue aussi qu'un nouveau report arrangerait finalement bien les affaires d'Emmanuel Macron. Il faut dire que le parti présidentiel La République En Marche est loin de partir favori.
Justement, Jacques, est-ce qu'il y a des enjeux des régions qui seront particulièrement scrutés?
Sans aucun doute, les Hauts-de-France, le président de région sortant, c'est Xavier Bertrand, qui, vous le savez, lorgne pour la suite sur l'Élysée. Sa réélection devait être une formalité, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Contre toute attente, il va se retrouver face à une gauche unie qui est parvenue à trouver un terrain d'entente pour s'allier.
Et ailleurs, en Ile-de-France?
Valérie Pécresse va se représenter. Elle a déjà attiré à elle une partie de la majorité gouvernementale, mais la surprise vient du Rassemblement National qui place un de ses poids lourds, Jordan Bardella, tête de liste. Le RN qu'il faudra aussi regarder de près. En PACA, Thierry Mariani, transfuge des Républicains, devrait prochainement se déclarer candidat face à son ancien ami, le sortant Renaud Muselier. Enfin, la Bretagne était dans le viseur des marcheurs. C'est loin d'être gagné. Ce sera l'un des autres enjeux de cette élection. Une élection locale, mais pas que. À 9 mois de la présidentielle, le scrutin prendra forcément un tour national.
La brigade RTL signée Jacques Serret. Merci. Et puis cette information pratique à Lille. Le mouvement de grève se poursuit aujourd'hui sur le réseau de transport en commun Ilévia suite à l'agression d'un chauffeur samedi. Il n'y a toujours pas de bus aujourd'hui, mais le métro et le tramway circulent normalement.
L'histoire du jour, pour finir.
Imaginez la surprise de cet habitant de Toulouse. Un couple s'est introduit chez lui, dans son appartement du rez-de-chaussée, dans la nuit de dimanche à lundi. L'homme et la femme se sont installés tranquillement dans un lit, comme si c'était le leur. Le couple a été cueilli par la police. La nuit d'amour s'est terminée au commissariat.
Et c'était le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, notre bureau de vérification de l'information en lieu et place de Jean-Mathieu Pernin. Nous écouterons aussi Michel Simès nous parler de la sédentarité de nos adolescents. Il faut absolument faire quelque chose.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
La chasse aux fausses informations est ouverte avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Jean Castex était-il responsable de la vaccination contre la grippe H1N1 en 2009 ?
Et oui, qui se souvient des effets secondaires du vaccin H1N1 ? C'était déjà du Castex, où le plus simple et direct, tout était planifié depuis des années. Ils n'ont pas réussi leur coup, ils recommencent. H1N1, Castex, Bachelot, Sarkozy, signale un compte Twitter en soutien au chanteur Francis Lalanne. Ah bah oui. Bon, alors tout est parti d'une publication en fait sur Facebook. On y voit une photo de Nicolas Sarkozy et de Jean Castex, alors Jean Castex plus jeune, hein, avec des cheveux, sans lunettes, avec ce texte. Jean Castex était conseiller de Nicolas Sarkozy en 2009. Le scandale H1N1, la vaccination de masse au Tamiflu pour 1,5 milliard au profit de Big Pharma, c'est déjà lui. Ah, nous y voilà, voilà, tout est clair maintenant. Sauf que non, en fait, puisqu'en 2009, Jean Castex s'occupait de sa ville de Prades et ne rejoindra Nicolas Sarkozy à l'Élysée, comme l'indique le journal officiel, que le 22 novembre 2010 au poste de conseiller aux affaires sociales, soit un an après l'épidémie, un peu tard pour s'y intéresser.
Alors évidemment, c'est une intox qui joue sur le parcours de Jean Castex associé au domaine de la santé.
Complètement, voilà. En 1996, Jean Castex est chargé des affaires sanitaires et sociales dans le Var, avant d'être nommé, entre 2004 et 2006, directeur général de l'hospitalisation et des soins ministère de la Santé. En 2006, d'ailleurs, il rejoint le cabinet de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et des Solidarités. Et en 2009, au moment de la grippe H1N1, Jean Castex vient d'être élu maire et la personne en charge de la vaccination est alors Roselyne Bachelot. Et oui, on se souvient du fiasco à l'époque. Les Français ne sont que 6 millions à se faire vacciner. Bachelot annule une commande de 50 millions de vaccins et aura du mal à les revendre. Au total, ce sont près de 400 millions d'euros qui seront dépensés pour les vaccins, achats et destructions compris à l'époque. Et Jean Castex est toujours à Prades.
Bon, Jean Castex est souvent l'objet d'un tox, d'ailleurs.
Oui, exactement. Comme Édouard Philippe, en fait, avant lui, oui. Ou autre responsable politique, un peu épargné jusqu'à présent. La récente vaccination du Premier ministre vient confirmer la phrase: si à 50 ans, tu n'es pas l'objet d'une bonne intox, t'as raté ta vie. C'est fait pour Castex à 55 ans, qui, après avoir reçu sa première injection vendredi, est accusé par de nombreux messages d'avoir eu une fausse piqûre avec une fausse seringue. Comme Boris Johnson, d'ailleurs, au même moment. Bref, un vrai bizutage.
Merci beaucoup, Jean-Mathieu Pernin. Dans un instant, Michel Simès et nos ados hein, en pleine sédentarité en temps de Covid. A tout de suite.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL Matin,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous adressez aux ados et par ricochet à leurs parents, n'est-ce pas ? Parce que la sédentarité et l'inactivité des jeunes ont encore gagné du terrain.
Eh oui, je vais vous donner un chiffre, hein, ouais. 80%. C'est la proportion d'ados jugés inactifs par l'Organisation mondiale de la santé. Alors on parle là des 11-17 ans qui font moins d'une heure d'activité physique par jour.
Je sens qu'on va reparler des écrans.
Vous avez du flair, Yves. Là encore, quelques éléments chiffrés. 66% des 11-17 ans passent plus de 2 heures par jour sur les écrans. 17% y consacrent plus de 4h30. Et parallèlement à ça, bah, ils font moins de 20 minutes d'activité physique par jour. C'est évidemment trop peu. Les habitudes d'aujourd'hui déterminent la santé de demain. Et pour se construire un avenir enviable, eh bien, je ne vois rien de mieux que le sport.
Bah comment on fait justement pour convaincre les plus récalcitrants ?
Bah la recette miracle, personne ne la connaît, Yves. Hein, j'ai en stock quelques petits trucs qui peuvent faire bouger les lignes. Mmh. Alors déjà, vous pouvez leur rappeler que l'été se profile. Hein, qu'on peut espérer que ce sera un bel été, qui nous verra libérer des contraintes liées à la pandémie et que dans cette perspective, le fait de bouger est non seulement bon pour la santé, mais aussi profitable à l'esthétisme corporel. Hein, je connais des ados que cet argument a remis en selle.
J'en connais d'autres qui ne se sentent pas concernés.
Voilà, bah, il faut essayer. Autre tactique, l'exemple. Chouiner contre l'ado qui passe sa vie devant un écran alors que les adultes de la famille font pareil, c'est comme uriner dans un Stradivarius, si vous me passez l'expression.
Vous voulez dire pisser dans un violon.
C'est ça même. Alors l'exemple parental doit aussi jouer pour ce qui est du sport. À quoi ça sert d'enjoindre ses enfants à faire du sport si soi-même on ne bouge pas. En faisant de l'activité physique un loisir familial, on augmente les chances de faire adhérer tout le monde au projet, quitte à ce que le père qui aime le jogging et la mère qui en pince pour la marche nordique fasse une croix provisoire sur leur sport favori et accepte de chausser des rollers ou de se mettre au vélo.
Avez-vous, à défaut d'astuces, d'autres arguments, on va dire, plus médicaux ?
Bah, en tout cas, j'en ai un. Oui. Dites aux ados qu'ils atteignent leur plein potentiel cardiaque à 25 ans. Après, c'est fini. on passe à une autre phase, celle de la gestion de l'acquis, de l'entretien, du maintien de ce potentiel. Et puis pour le reste, un peu d'empathie ne saurait nuire.
Que voulez-vous dire ?
Bah, même s'ils ne le montrent pas toujours, les ados souffrent en ce moment. Les confinements successifs et le couvre-feu ont forcément entamé leur joie de vivre. N'hésitez pas à leur dire que vous le savez, que vous comprenez leur stress, que le meilleur moyen de l'atténuer, c'est le sport. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. On a beaucoup parlé ces derniers temps, vous le savez, de cette dépression qui touchait les étudiants. On peut malheureusement craindre, en l'absence de sursaut de leur part, que les ados soient aussi concernés. Et ça, les parents doivent le savoir.
Merci beaucoup de tous ces conseils familiaux, cher Michel. À demain.
À demain.
Dans un instant, nous allons revenir sur les tensions avec la Chine, avec notre invité François Godemant, historien et spécialiste de l'Asie.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin, 7h-9h30.
Avec Yves Calvi.
Il est 8h22. Bonjour François Godemant.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL ce matin. Vous êtes historien spécialiste de l'Asie à l'Institut Montaigne. Nous en parlons largement à nos auditeurs depuis le début de la matinale. Situation diplomatique très tendue entre la Chine et le reste du monde, particulièrement l'Europe et notamment la France. Dernier fait en date, des sanctions prises par les Chinois contre les diplomates et personnalités aux quatre coins du monde, avec notamment des refus d'accès sur le sol chinois. Et puis la convocation dans la journée au Quai d'Orsay de l'ambassadeur de Chine en France. François Godemant, que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qui explique ce climat de tension? Après, on va prendre les dossiers les uns après les autres.
Bah, je crois très simplement le fait que la Chine pratique une diplomatie de plus en plus agressive, veut sanctionner très au-delà de son territoire ceux qui critiquent la Chine. Et les critiques, ce sont celles qui atteignent, d'après elle, sa souveraineté. Et ses affaires intérieures, mais ses affaires intérieures, ça va très loin. Et en l'occurrence, l'Union européenne, après des mois et des mois d'ailleurs d'hésitation et de débats, a pris des sanctions contre quatre responsables de la répression au Xinjiang, une répression féroce dont je vous rappelle que les États-Unis la qualifient de génocide et que plusieurs parlements en Europe ont également condamné.
Et ce, voilà, pour la première fois depuis les événements de Tiananmen.
Oui, en effet, ce sont des sanctions de nature très différente. Les sanctions de Tiananmen étaient générales, portées sur les ventes d'armes, sur les crédits. Là, ce sont des sanctions individuelles contre des responsables, ce qu'on appelle les sanctions Magnitsky, qui ont été forgées d'abord à propos de la Russie, et qui, pour la première fois, s'appliquent à la Chine. Cela dit, les Européens ne sont même pas allés aussi loin que les Américains, qui, l'été dernier, ont placé sous sanction le responsable numéro un du PCC au Xinjiang.
Le PCC, je rappelle qu'il s'agit du Parti communiste chinois.
Est-ce qu'au
moment où nous parlons, il y a objectivement, alors avec bien entendu ces disparités, mais un front occidental qui se forme contre Pékin?
Ce serait aller trop loin, mais on peut observer que hier, quand les Européens ont annoncé leurs sanctions contre quatre responsables, la Grande-Bretagne, qui pourtant est dans ses... Comme vous le savez, dans son conflit lié au post-Brexit avec l'Europe, a adopté exactement les mêmes, et que le Canada de même, et que les États-Unis ont ajouté deux noms qui manquaient, si j'ose dire, à leur liste, qui sont dans la liste européenne. Donc il y a clairement une coordination de ces mesures concernant les droits de l'homme.
Mais ça veut dire que tout cela ont décidé d'en découdre avec la Chine ?
En découdre, le mot est peut-être fort, parce que ces sanctions restent largement symboliques, mais marquer un coup d'arrêt, et placer la Chine sous surveillance, malgré, je dirais, la coercition qu'elle exerce avec son influence économique à l'étranger.
Alors, qu'est-ce qui est en cause exactement? On parle régulièrement, bien entendu, de la situation des Ouïghours, qui est une minorité, il faut le rappeler, chinoise. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation des Ouïghours en Chine aujourd'hui et de ce qu'ils représentent au sein même du grand ensemble chinois?
Ouïghours, avec en plus une dose de Kazakh et de Kirghiz au Xinjiang, ça représente à peu près 12 millions de personnes, à peu près la moitié de la population de la région. C'est effectivement une population qui est traversée par des courants autonomistes ou indépendantistes ou parfois islamistes. Elle a été placée sous une chape de plomb sous le règne de Xi Jinping, avec l'emprisonnement dans ce que la Chine choisit d'appeler des centres d'éducation professionnelle, qui sont des prisons avec des barbelés, des miradors, des gardes et des traitements parfois inhumains. Plus d'un million d'adultes, jeunes, âgés. Il y a des mesures de stérilisation des femmes, de stérilisation forcée. Il y a la séparation des enfants des parents des gens emprisonnés, là, ils sont confiés soit à des familles adoptives parfois Han, soit placés dans des orphelinats. Bref, une situation atroce et dont j'insiste sur le fait qu'elle n'est pas, comment dire, elle ne porte pas sur une fraction limitée de la population. C'est une véritable entreprise industrielle. Ce sont, il faut dire le mot, des camps de concentration, certes sans le terme qu'on a signé au camp de concentration à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même les violations les plus graves que la Chine ait commises depuis la fin du maoïsme.
Baptisé par la Chine Centre d'éducation professionnelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment, je dirais, sur le plan diplomatique? On a un ambassadeur qui est convoqué aujourd'hui par les autorités françaises. L'ambassade de Chine a tenu des propos absolument invraisemblables concernant un de vos confrères, un spécialiste de la Chine, oui. Antoine Bondaz, qui prend la parole régulièrement sur l'antenne d'RTL. Je veux dire, là, il y a de la gesticulation ou ce sont des tensions effectives au sens le plus pur du mot diplomatique?
Il y a une histoire dans l'histoire. Cet ambassadeur, Lu Chaye, pour ne pas le nommer, oui. Est coutumier du fait. L'an dernier, il avait, dans une tirade... Enfin, il avait, son ambassade avait, mais tout le monde sait que c'est lui qui écrit ses blogs, d'ailleurs souvent, effectivement, assez pittoresques dans la langue. Il avait accusé les personnels soignants des EHPAD d'abandonner, de laisser mourir de faim les pensionnaires des EHPAD pendant la pandémie, et il avait déjà été convoqué au Quai d'Orsay. La défense de l'ambassade de Chine, je la signale pour mémoire, c'est que cette phrase-là ne citait pas explicitement la France, mais c'était à l'intérieur d'une tirade qui visait entièrement la France. Oui. Il a fait de même au Canada. Donc on a une espèce de compétition entre diplomates chinois pour être celui qui va le plus loin, le plus fort, et il n'y a pas de doute que Lu Chaye est assez en tête dans le peloton.
Voilà, il a notamment traité par ses tweets de petites frappes et de yen folle votre confrère Antoine Bondaz, qui réagissait d'ailleurs ce matin sur l'antenne d'RTL. Est-ce que nous sommes en position de pouvoir donner des leçons à la Chine? Car il y a un moment où les sanctions économiques apparaissent dans ces dossiers-là. Ce matin, François Langlais rappelait à quel point, par exemple, Volkswagen fait 40% de son chiffre d'affaires mondial aujourd'hui en Chine. Voilà, quelles sont les limites de ce que l'on peut dire et de ce que l'on peut imposer aux Chinois quand on veut, en tout cas, parler droits de l'homme?
Ces limites vont arriver vite, il faut le reconnaître. Ça n'est pas par hasard, je pense, que la Chine impose à l'Europe des sanctions plus larges, plus violentes, que ce qu'elle a fait à l'égard des États-Unis l'été dernier dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas par hasard qu'elle menace de prendre des sanctions supplémentaires, en quelque sorte de pratiquer une escalade. Ce n'est pas par hasard que dans la liste des sanctions est mentionné carrément le Comité politique et de sécurité européen, c'est-à-dire la réunion institutionnelle des 27 ambassadeurs européens. Comme si on pouvait sanctionner les 27 européens et par parenthèse leurs familles, leurs associés, car les sanctions visent aussi les familles. Il y a une notion de culpabilité collective. Ceci dit, va certainement renforcer le camp de ceux qui veulent mettre une limite à l'entrée de la Chine sur le plan économique en Europe, et notamment ceux qui ne veulent pas ratifier le traité d'investissement avec la Chine qui a été négocié à la fin de l'année dernière.
Donc, il y a des mesures de rétorsion à caractère économique qui sont en tout cas au minimum en cours d'évaluation. On leur dit quoi là en ce moment? Stop, ça suffit?
Il faut regarder ce que vont faire les différents pays européens, c'est ça qui compte. On voit que le Premier ministre néerlandais a rejoint le gouvernement français. On attend une véritable réaction du gouvernement allemand, qui est évidemment le pivot et qui, à cause de ses liens économiques, vous savez, plus vous êtes dépendant de la Chine sur le plan économique, plus vous êtes empêtré et interdit de réaction. On le voit en Asie avec l'Australie, par exemple, et on le voit aussi dans le cas de l'Allemagne et de sa fameuse industrie automobile. Donc, il s'agit de voir jusqu'à quel point les Européens vont réagir collectivement au niveau des institutions et au niveau du Parlement européen. Je crois que c'est fait. La Chine n'a pas hésité à sanctionner des députés qui appartiennent aux quatre grands groupes du Parlement européen. C'est un véritable défi.
Merci beaucoup François Gonnement. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'Asie à l'Institut Montaigne. Merci de nous avoir éclairé sur cette situation en ce moment, à la fois intérieure en Chine et de rapport de force où apparemment le camp occidental s'est décidé à réagir, mais avec les limites que vous évoquiez il y a quelques instants sur l'antenne d'RTL. Très bonne journée à vous. Il est 8h31. Dans quelques instants, nous retrouvons Louis Baudin pour notre météo à 7 jours. À tout de suite.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Bernard Lehu.
Laissez-vous tenter.
Cette année encore, Agnès Martin-Lugan fait partie des 10 auteurs les plus lus en France. Son histoire d'amour avec les lecteurs a commencé il y a 9 ans, quand, jeune mère de famille, elle auto-publiait sur Internet son premier livre, Les gens heureux lisent et boivent du café, devenu depuis un best-seller. Agnès Martin-Lugan publie jeudi son nouveau roman, La Datcha. Elle viendra vous le présenter en avant-première dans Laissez-vous tenter à 9h.
RTL Matin.
La météo à 7 jours, il est 8h33, Louis Baudin, et je vois, comment dirais-je, une petite lueur dans votre regard.
Oui, parce que demain sera une vraie première belle journée de printemps, avec du temps sec, ensoleillé et doux, y compris l'après-midi, parce qu'aujourd'hui, on va avoir du soleil, mais encore une certaine fraîcheur. Demain, nous aurons le soleil et également la douceur. Alors c'est vrai qu'au réveil, on ne sera peut-être pas encore très loin des gelées, dans le centre ou encore dans le nord-est, mais en cours d'après-midi, 15 à 17 ou 18 degrés dans la moitié nord demain. Enfin, des valeurs un peu au-dessus des moyennes de saison et on frôlera les 20 degrés dans le sud. Bon d'accord, c'est juste demain parce que jeudi, les nuages reviendront déjà avec quelques gouttes de pluie, des températures toujours raisonnables autour de 15 degrés dans le nord, 18 dans le sud. On aura un peu plus de soleil près de la Méditerranée. Vendredi, alors là, c'est la journée la plus désagréable avec des nuages, de la pluie. Le refroidissement sera assez net. D'ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, on pourrait bien avoir quelques flocons du côté des Ardennes. Peut-être également sur les Vosges ou encore les Alpes du Nord à basse altitude. Samedi, restera encore quelques averses dans les régions de l'Est, mais l'anticyclone reviendra par l'Ouest avec un temps plus sec, plus ensoleillé dans l'Ouest et le Sud. Encore de la fraîcheur. Et dimanche, nouvelle belle journée de printemps. Du soleil pour tout le monde. De nouveau de la douceur l'après-midi. On dépassera les 15 degrés facilement dans la moitié Nord, pas loin de 20 degrés dans le Sud. Et un petit bonus, ça pourrait persister en début de semaine prochaine, lundi et mardi. Donc, c'est-à-dire 3 jours de printemps à partir de dimanche.
Tout cela est fort agréable et ça commence dès demain. Alors, comme je connais votre curiosité, j'ai remarqué qu'en Australie, en ce moment, il y avait des averses, en tout cas des pluies absolument torrentielles. Alors, je ne sais pas si je peux les qualifier de torrentielles.
Si,
qu'est-ce qui se passe? Parce que si on a la perception d'un pays, au contraire, plus en plus désertique et confronté aux très grandes chaleurs.
Et ben là, ça concerne la côte est exposée au Pacifique. Oui. Donc, on a effectivement un phénomène qui s'appelle El Niño. C'est-à-dire qu'on a des eaux très très froides sur le côté américain, si je puis dire, du Pacifique. Donc c'est-à-dire que les eaux chaudes se sont transférées vers l'ouest. Donc on a un peu un épisode Cévenol à l'image de l'Australie. Comme nous, on a en Méditerranée ces eaux très chaudes en fin d'été, ce qui est le cas en ce moment sur l'Australie, on arrive à l'automne, eh bien on a ces eaux très chaudes qui provoquent de l'humidité, qui vient ensuite se bloquer sur le relief de l'est de la cordillère de l'Australie, et là eh bien se produisent ces phénomènes où les pluies s'accumulent avec malheureusement des conséquences importantes, puisque on a eu plus de 300 mm de pluie par endroit. Ça ressemble aux quantités d'un épisode Cévenol avec les mêmes conséquences, des fortes inondations.
Ils ne sont pas habitués à ça, c'est impressionnant?
Non, ils sont habitués, ça arrive de temps en temps. Comme nous, on connaît ces épisodes, mais effectivement, ça reste quand même exceptionnel et heureusement.
Voilà, un Louis Baudin qui est annonciateur demain de notre première journée de printemps. Nous serons le mercredi 24 mars 2021. Signifions-le à la population.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça en Ardèche ce matin, à Privas très exactement, plus petite préfecture de France, avec ses 8400 habitants, connus pour ses marrons, qu'ils soient en crème ou en version glacée. Mais nous allons vous présenter son université ce matin. Bonjour Raphaël Vantard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le département de l'Ardèche a donc lancé, avant la crise sanitaire, 2 sites universitaires à distance, des campus connectés où les étudiants peuvent suivre des études supérieures sans se déplacer hors du département. On vous suit pour une visite, Raphaël.
Il n'y a pas le brouhaha d'une cafétéria ou d'un resto U. Ici, c'est plutôt le doux chant des oiseaux, illuminé d'un magnifique rayon de soleil qui accompagne la petite dizaine d'étudiants ce matin-là. Ali Aksen débute avec nous la visite de cette première faculté ardéchoise. Ali est à la fois le responsable des études, le tuteur, mais aussi le coach, l'épaule sur laquelle les étudiants se repose.
Alors, on dispose de plusieurs salles, effectivement. Donc, une petite salle de réunion équipée d'un système de visioconférence. À côté, on dispose d'une autre petite salle également, qui permet aux étudiants de se retrouver, de pouvoir travailler ensemble sur un sujet transversal, sur de l'anglais. Ça permet aussi à certains étudiants de pouvoir s'entraîner ici, s'isoler et puis de faire un devoir en temps réel. On a un patio qui est aussi agréable au beau jour, qui permet de sortir s'aérer dans un espace avec de la verdure. La salle connectée, les étudiants y sont présents la plupart du temps. Ils disposent tous d'un poste informatique qui leur permet de se connecter à l'environnement numérique de travail de l'université ou du CNED ou de l'organisme de formation. Ça leur permet de suivre les enseignements en ligne.
Dans cette grande salle, alors que les autres étudiants en sciences de l'éducation, en commerce, en musicologie sont en pause, Antoine, lui, préfère garder le nez sur ses cours.
Là, je suis en train de faire un cours sur donc, c'est les révolutions. Je travaille en double écran. Sur l'écran de gauche, j'ai mon cours. Et sur l'écran de droite, c'est en gros les fiches que je fais sur mes cours pour pouvoir ensuite les reprendre et imprimer le contenu. Il y a quand même une vie étudiante, on se retrouve, etc. Tout à l'heure, il y avait l'atelier information là, qui est vachement intéressant chaque semaine. Ces choses-là qui ont fait que je suis venu ici.
En cas de doute, de peur, de blocage que les cours à distance ne permettent pas de résoudre, Ali, le responsable des études, surgit de son bureau au milieu des étudiants pour intervenir.
Mais pourquoi ces étudiants restent-ils seuls en plein cœur de l'Ardèche, Raphaël ? Pourquoi fuient-ils ce qui était souvent le rêve de leurs aînés ? Quitter le cocon familial pour une vie étudiante citadine.
Vous allez l'entendre, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte en fait et tout s'est accentué avec la crise du Covid. Le coût des études évidemment, le cadre de vie à la campagne chez papa et maman et le petit cocon de ce campus à 10 étudiants, loin, très loin de l'anonymat des grandes universités.
Je m'appelle Kevin, j'ai 19 ans, je suis en BTS Management Commercial Opérationnel.
Donc je m'appelle Nicolas. Moi je suis en licence d'histoire en deuxième année. Ce matin moi je suis arrivé à 10h parce qu'on aménage un peu nos horaires comme on le sent.
Pourquoi vous avez choisi ce campus connecté ? Parce que vous pourriez étudier l'histoire dans une faculté. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Déjà par le contexte sanitaire, ça m'évite d'aller en ville, de payer un loyer alors qu'on ne sait pas forcément si les facs vont être fermées ou ouvertes, de pouvoir rester chez mes parents en attendant d'avoir une licence et éventuellement mon diplôme, quoi. Ça fait des dépenses, ça fait des transports pour revenir, voilà, des trajets.
Nicolas, vous êtes en histoire, vous, Kevin, vous êtes dans des études de management. C'est complètement différent, vous arrivez quand même entre vous à vous aider ?
On a toujours des matières qui peuvent se rapprocher, ou même du vécu.
Et puis on discute entre nous, on prend des petites pauses entre nous, on se booste, on discute un peu de nos cours, même si ce n'est pas forcément les mêmes filières.
On a quand même grandi ici, donc on est un peu quand même attaché à l'Ardèche.
Pendant cette crise du Covid, le campus connecté accueille aussi des étudiants ardéchois revenus chez leurs parents et perdus seuls dans les cours à distance. Mais la raison d'être de cette fac ardéchoise est au départ bien plus large. Laurent Huguetto, le président socialiste du département, veut stopper une spirale, un chiffre. 50% des bacheliers ardéchois ne poursuivent pas leurs études après le bac ou arrêtent après quelques mois d'études supérieures.
L'idée pour cela, c'est de dire qu'il n'y a pas de frein et que les ardéchois, les jeunes ardéchois, se disent ben, « en Ardèche, je peux étudier et donc j'ai le même droit » et j'ai la même possibilité de faire des études qu'ailleurs. Et c'est pas parce que je suis né en Ardèche que j'ai ce frein-là. On n'a pas d'autoroute, pas de train. C'est quand même pas mal qu'on ait accès aux études supérieures.
Après Privas, un autre campus est né à Aubenas et un troisième accueillera bientôt ses premiers étudiants de cours à distance sur un nouveau campus connecté à Annonay, dans le nord de l'Ardèche.
Merci beaucoup Raphaël Vantard pour ce reportage que l'on peut retrouver sur l'application mobile RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Surprise ce matin, nous partons en Irak à la recherche des flamants roses, Isabelle.
Une étrangeté gracieuse aux couleurs de l'aube qui suscite beaucoup de convoitises. Dans la province marécageuse de Maizan, au sud-ouest de Bagdad, l'espèce est braconnée, j'ai lu ça dans le magazine Cosette. Direction le marché aux oiseaux d'Alamara, la capitale de Maizan. Imaginez la foule qui se presse dans les rues étriquées, des motos, des vélos, des chariots qui s'entrechoquent. Et pour la bande-son, bien sûr, des piaillements sur tous les tons. Chaque matin, les marchands vous proposent des oiseaux par centaines, morts ou vifs, des volatiles vendus pour leur chair, leur plume ou leur élégance. Le flamant rose, c'est un peu tout ça à la fois, un animal décoratif mais aussi un plat très apprécié dans les campagnes. Pourtant, vous n'en trouverez pas au marché, en tout cas pas sur les étals. L'espèce est protégée comme tous les oiseaux migrateurs. Mais plus que la peur du gendarme, en fait, les marchands redoutent le bad buzz sur les réseaux sociaux. En 2016, des images de flamants roses enfermés, ligotés ou décapités ont circulé sur Facebook et tout le pays s'était indigné. Alors depuis, ça se vend sous le manteau. Il ne faut pas très longtemps pour qu'on vous en propose comme une drogue illicite. Mustapha donne ainsi rendez-vous chez lui. Chez lui, c'est dans une banlieue pauvre, une bâtisse en briques. Dans la cour, une volière pleine de perruches et sur le toit, un enclos qui abrite une poignée de garnouk, c'est le nom irakien des flamants roses. Je les vends par paire, dit-il, entre 30 000 et 40 000 dinars. Ça fait entre 17 et 22 euros. Pardon. Les gens riches les veulent vivants pour décorer leur jardin ou les ajouter dans leurs eaux privées, dit Mustapha. J'ai beaucoup de clients étrangers, des Saoudiens, des Qataris et sur surtout des Koweïtiens. Mustapha en vend jusqu'à 10 paires par mois en période migratoire, c'est-à-dire d'octobre à février. Ça met du beurre dans les épinards car nous sommes dans la région la plus pauvre d'Irak, la plus analphabète aussi. Les clients ne manquent pas, comme Ahmed, ingénieur, très fier de sa petite propriété. Sur un rectangle de pelouse, une petite fontaine kitsch éclairée par des néons roses et dans la pénombre, deux silhouettes élancées. J'en voulais depuis longtemps, dit-il, c'est un très bel oiseau à mettre dans son jardin. Les flamands ne s'enfuient pas dans ce petit espace, ils n'ont pas assez de place pour s'envoler. Et puis de toute façon, la plupart du temps, les braconniers mutilent leurs ailes avant de les vendre. Beaucoup d'oiseaux viennent de Cheb, un grand lac artificiel à la frontière iranienne. Les braconniers y tendent des pièges aux flamands qui viennent se nourrir. Ils en capturent des milliers chaque année. La police est démunie. Il y a 8000 km² de marécages à couvrir. Ici, tous les trafics se croisent, hein, la drogue, les armes, les oiseaux. Le reporter de Cosette a essayé de se rendre sur place. Il est tombé sur quatre braconniers. L'un d'eux est venu à sa rencontre, une hache dans la main droite et une autre agitée deux pistolets. Allez circuler, il n'y a rien à voir. La viande de flamand n'est pas la meilleure, disent les femmes du coin, mais elle n'est pas chère. En revanche, la cervelle, Yves, la cervelle est un mets raffiné extrêmement recherché. Ici, en fait, on croise deux genres de braconniers. Les historiques, ils chassent de temps en temps à la papa, si on peut dire, hein, pour joindre les deux bouts. Et puis les vrais trafiquants qui braconnent de manière quasi industrielle. Certains vont jusqu'à creuser des étangs artificiels à coups de pelleteuse. Ils y cachent de gigantesques filets et des appâts. Et ils capturent comme ça des centaines d'oiseaux à la fois. C'est un paradis menacé de toutes parts. Voilà ce que dit un ornithologue. Le vol sans retour des flammes en rose. Grand reportage à lire dans le magazine Cosette.
Reportage très impressionnant, je n'avais jamais entendu parler de ça. Bon, merci beaucoup Isabelle Choquet, à demain.
À demain.
Bonne journée à vous, dans un instant nous allons retrouver Laurent Gérard.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Un grand bonheur se prépare. Il est d'ailleurs déjà commencé. Voilà. Le simple fait de pouvoir dire bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Et voilà, alors apothéose.
C'est bien réciproque.
Mais oui, bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. Jean Lassalle a annoncé la semaine dernière sa candidature officielle à l'élection présidentielle de 2022. Ah oui. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Jean Lassalle.
Mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, bonjour.
Dans le communiqué que vous avez envoyé à l'AFP, vous avez déclaré vouloir incarner la joie dans cette campagne. Comment allez-vous faire ?
Mademoiselle Jade, oui. Je ne vais pas faire des meetings. Je vais faire des méchouis. Ah. Ta gueule, Lucien, tu vas y passer. C'est pour le bien de la cause.
C'est une façon originale de faire campagne, en effet.
Croyez-moi, ma petite Jade. Oui. Un bon méchoui, du vin qui coule à flot. Et un bal populaire avec Dédé et son orchestre qui joue la digue du cul à l'accordéon. Il n'y a rien de mieux pour mettre du baume au cœur aux Français qui en ont bien besoin.
Dans votre communiqué à l'AFP, vous affirmez également « Pour moi, la politique est un art. Malheureusement, il n'y a plus tellement d'artistes. »
Mais c'est vrai, bout du con. Il n'y a plus d'artistes. Il n'y a plus que des ânes. Ah, mais ta gueule, c'est une expression. Arrête de brer, ou toi aussi tu vas finir à m'échouer. Ah, arrête de gueuler, je te dis. Sinon, monsieur Lignac va te mettre une broche dans le cul.
Et c'est quoi un artiste de la politique alors, monsieur Lassalle? Oui. On s'y perd là.
C'est un homme capable d'ouvrir les yeux des Français pour leur montrer qu'ils vivent dans une œuvre d'art qu'on appelle la France. La France. Et quand on vit dans un aussi beau pays, on n'a pas le droit de se plaindre. Alors, si vous en avez marre des pisse-froids, des casse-bonbons et des rabat-joie, votez Jean Lassalle, bout du con.
Joe Biden a dû renvoyer ses deux chiens de la Maison Blanche après que l'un d'eux a mordu un agent de sécurité. Pour en parler, nous recevons un des plus influents membres de l'administration de Washington, John Rambo.
Putain, je suis trop dégoûté. C'est de Clébard, c'est notre seule source d'amusement depuis que Clippy Joe il a installé sa baignoire à porte à la Maison Blanche. On se marrait bien avec eux, presque autant qu'avec Donald quand il écrivait ses tweets.
Bah, c'est-à-dire ?
Quand le vieux a posé son cul dans le bureau ovale et qu'il nous a dit qu'il avait ramené ses deux kleps, vu son âge, on s'est dit que ce serait des caniches ou des Yorkshire, tu vois, des petits trucs à mémère. Mais pas du tout. C'était deux bergers allemands magnifiques avec des mâchoires comme t'en as jamais vu.
Oui, et alors ?
Alors on s'amusait bien avec Champ et Major. On leur envoyait le bouton nucléaire et ils le ramenaient à chaque fois.
Mais c'est très dangereux.
Quoi? On faisait la même chose avec Donald et ça se passait très bien. Toujours armé la queue, mon Donald.
Ah bah oui, mais pour la sécurité de tous, il vaut mieux que ces deux chiens soient loin de la Maison Blanche.
Ne parle pas de ça. Ça me rappelle un souvenir que j'arrive pas à me sortir de la tête.
Bon, alors racontez-nous, John Rambo, ça vous soulagera.
Oui.
C'était du temps de Donald quand il voulait se débarrasser de Kung Fu Panda, le petit gros coiffé comme un balai à chiottes.
Ah, vous voulez parler de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, j'imagine.
Ouais, c'est ça, Donald. Il nous dit, les gars, vous allez bouffer du pékinois.
Oh non, pas les pékinois.
On s'est dit qu'on allait faire la guerre à Pékin, ça nous plaisait bien.
Mais Pékin, c'est en Chine, pas en Corée du Nord. Hein.
Ouais, tout ça, c'est pareil, tu vas pas chipoter. Toujours est-il que pour s'entraîner à bouffer du pékinois, Donald, il nous a amené dans un resto de Nyakoué à Washington. Sauf que ce qu'on a bouffé, c'était vraiment du pékinois et pas assez cuit. Mon pote Bobby, il a mordu dans son rouleau de printemps. Le rouleau de printemps, il a fait waf waf.
Oh, mais c'est affreux, écoutez, pauvre bête.
Le pire, c'est que le pékinois, il avait recongelé après avoir été décongelé. Du coup, mon pote Bobby, la guerre, il l'a faite dans les gogues. Oh, c'était un carnage, il y en avait bardeau.
Oh non, mais écoutez, non, non, quelle horreur.
Alors moi, ce que je veux, c'est que Sleepy Joe, il rappelle ses bergers allemands. Promis, on les bouffera pas en strudel.
Le Vatican réaffirme son opposition à la bénédiction des couples homosexuels. Pourtant, il y a 5 mois, le souverain pontife avait signalé qu'il leur reconnaissait le droit de vivre ensemble et même de fonder une famille. Mm-hmm. Nous recevons ce matin sa sainteté le pape.
Hola, Soriac.
Hola.
Hola, Ferribus Calvinus qui fait sonner les matins. Ding, ding, dong. Pendant que y suis, il lui conseille d'abandonner sa fameuse chemise et de mettre une aube.
Ça lui irait bien. Ah oui, ça lui irait bien.
On ajoute un fromage et pourrait faire la poupe chaussée aux moines. Ça serait bien, ça serait pas mal.
Ben oui, on y pensera. Revenons plutôt sur cette opposition à la bénédiction des couples homosexuels.
Mm-hmm. Moi, il n'y a rien contre les messieurs de la yaquette. Ils les aiment bien, les messieurs de la yaquette. Ils sont comme moi, ils portent une robe.
C'est vrai.
Mais ils ne peuvent quand même pas transformer l'église Saint-Yac en Saint-Yaquette.
Ah oui. Alors, dans son communiqué, le Vatican précise que si l'église ne peut bénir les unions homosexuelles, Dieu, en revanche, s'en charge.
Bien sûr, car ils sont tous les enfants de Dieu. Oui. Même les messieurs qui ont des casquettes en cuir et qui aiment se faire des bisous sur la moustache.
Toujours est-il qu'on va encore... Oui, ça existe. Toujours est-il qu'on va encore dire que l'Église catholique est rétrograde.
Je sais, il m'énerve. Mais je vais donner un gage aux messieurs dames de la fanfare. Je vais demander de remplacer les Gloria in excelsis Deo par le YMCA.
Le quoi?
Tu vois, le YMCA. Tu vas voir ça, il demande au sacristain Raphaël.
Ah oui, Raphaël.
Oui, Raphaël. Le sacristain. Oui. Niveau du Seigneur. Non, oui. Envoyez la musique. Un, deux, tres. Il faut toucher le YMCA. Il faut toucher le YMCA.
Vous chantez rudement, bien, ah, oui.
Bah, François. J'espère qu'avec ça, je vais me réconcilier avec les homosexuels.
Merci pour ce beau message de paix.
Certainement réussi, oui.
Ah, oui.
Je profite de mon passage sur RTL. Il est là, l'enfant de cœur gastronome.
Oui, ah, vous voulez parler de Cyril Lignac? Oui, il est là, oui. Il est avec nous.
Il l'aime bien. Oui. Il n'y aurait pas par hasard une recette d'hostie. Parce que celles du Vatican ne sont pas bonnes. Elles collent au palais. Palais du Vatican.
Une solution, Cyril?
Oui, ça m'énerve.
Cyril va y réfléchir.
Voilà. Les nouvelles mesures gouvernementales prises pour endiguer la troisième vague de Covid-19 ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale Les Sinoc. Mm-hmm. L'épisode du jour, raconté bien sûr par l'inoubliable Claude Pieplu, s'intitule Le confiteu.
En ce temps-là, sur la planète Sinoc, le variant anglais faisait des ravages. Le Sinoc Macron, qui avait fait le pari de ne pas reconfiner en misant tout sur les vaccins, fut obligé de reconfiner faute de vaccins. Il inventa alors le confit-feu, un subtil mélange de confinement et de couvre-feu inspiré du régime Wedwechter. Avec le régime Wedwechter, on mange sans se priver. Avec le confit-feu Wedwechter, on confine sans être enfermé. Les Sinoc furent donc confinés dans les zones rouges, mais avec le droit de sortir sans limite de temps, à condition d'avoir rempli leur attestation de sortie sans limite de temps. Quant au couvre-feu, il fut décalé de 18h à 19h pour permettre aux Sinoc de profiter de l'heure d'été, de prendre l'apéro qui restait interdit sur les terrasses qui restaient fermées. Bref, avec le confit-feu, les Sinoques purent prendre l'air que le gouvernement leur pompait. C'est tout pour aujourd'hui.
Mais non, on en veut encore, c'est ça le problème. Et donc on vous retrouve sur le site rtl.fr et dès demain matin, bien entendu.
Ah bah oui, voilà. Demain. Et elle aussi alors?
Oui, je vais y travailler.
En fait, ce que vous voulez, c'est des blinis, Saint-Père.
Saint-Cyril, merci, oui. Avec du caviar.
Ça va vous changer de votre ordinaire, à n'en pas douter. Dans quelques instants, il va nous donner une bonne recette de quiche Lorraine. Ça vous convient, ça?
J'aime bien les lardons.
Voilà. Allez, les petits lardons et Cyril Lignac dans un instant.
RTL. Toujours avec vous.
RTL Matin. Yves Calvi.
Alors, il y a une grande excitation autour de votre quiche Lorraine depuis très tôt ce matin dans la rédaction, pour vous le dire. Et tout cela est dû notamment à Sophie qui vit à Paris et qui vous a écrit, cher Cyril Lignac, je suis une spécialiste de la quiche Lorraine et je voudrais savoir pourquoi quand on fait la garniture, elle s'affaisse. Bah alors, donc c'est pas vraiment une spécialiste, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as une explication, elle vous tutoie, et une solution pour qu'elle reste gonflée?
Alors vous, Yves, est-ce que vous faites des quiches Lorraine?
Non.
Bon, alors je vais vous donner une bonne recette.
Non, mais j'aime bien ça, mais je n'en fais pas.
Alors,
n'importe quelle tarte au fromage me fera plus plaisir.
C'est un autre. Donc, la quiche Lorraine, on met une pâte brisée.
Oui.
Déjà, ce qui est important, c'est de la faire très épaisse. Plus elle est épaisse, plus elle est onctueuse, plus elle est fondante. À la maison, on a toujours tendance à la faire très basse. On achète souvent la pâte et on la fait assez basse. Ce qu'il faut, c'est faire sa pâte, la mettre dans un moule un peu plus épais, un peu plus haut, et faire un appareil tout simple. 6 œufs entiers. 50 centilitres de crème, les lardons, ça c'est pour après, et on met 80 grammes de fromage râpé.
Ah bah oui.
On met 40 grammes à l'intérieur, et on fait revenir les lardons donc, de côté, on fait la pâte, on pique la pâte, on met les lardons. Alors moi j'aime bien mélanger, mettre un peu de poireau, pas faire simplement, mais la quiche Lorraine c'est vraiment que des lardons. On verse l'appareil.
Je vous signale qu'on va recevoir des lettres d'insultes des Lorrains qui ne veulent pas. Non, non, mais je vous préviens.
Oui.
Je sais que vous êtes parfaitement lucide. Ils ne veulent ni fromage ni poireau. Mais allons-y.
Non, mais moi c'est ma petite recette à moi.
Oui. Donc, oui, mais bien sûr.
Alors, j'enlève les poireaux. Non.
Je vous protège. Je suis là pour ça.
On met les lardons. On met l'appareil dessus. Et moi, je mets un petit peu de fromage dessus pour que ça gratine. On cuit à 180 degrés pendant 45 minutes à 1 heure selon l'épaisseur. Et là, quand c'est bien doré, bien croustillant, eh bien, on la sort. Et moi, je l'aime juste tiède. Alors, je peux dire comment je l'aime?
Oui.
Avec une petite salade, des pommes vertes et quelques petites carottes râpées.
C'est parfait. Merci.
Et j'ai un repas complet.
Un repas complet qui vous était proposé par Cyril Lignac pour sa recette donc de potée, en quelque sorte. qu'il appelle quiche Lorraine. Merci beaucoup. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
9h01, un point sur l'information avec Jérôme Florin.
Eh bien, la quiche Lorraine de Cyril, on la mangera seule à table, à la cantine, puisque c'est désormais le nouveau protocole sanitaire en vigueur dans les entreprises. Le télétravail aussi devra être renforcé dans les 16 départements reconfinés. Près de 30% des contaminations ont lieu au bureau, d'après la dernière étude de l'Institut Pasteur. Les contaminations qui s'envolent en Ile-de-France, le taux d'incidence est désormais supérieur à 530 pour 100 000 habitants. C'était 400 il y a une semaine. Les fêtes de Pâques seront confinées en Allemagne. Pas de cérémonie religieuse du 1er au 5 avril. La plupart des magasins resteront fermés. La situation est grave pour Angela Merkel.
L'Allemagne est entrée dans une nouvelle pandémie. Elle est due à la propagation du variant anglais. Cette mutation donne un virus nouveau. Il est beaucoup plus létal, beaucoup plus infectieux et il est contagieux pendant beaucoup plus longtemps.
Et puis aux États-Unis, cette fusillade dans un supermarché du Colorado à Boulder. Il y a 10 morts, dont un policier de la ville. Un suspect a été interpellé. On ne connaît pas encore ses motivations.
Merci beaucoup Jérôme Florin, RTL. Il est 9h.